Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du SAV de la F1 consacré au Grand Prix de Turquie. Un Grand Prix où il n'aura pas plu, mais qui ne nous aura pas déplu. Encore une fois, beaucoup de choses à dire, et pour une fois, ce n'est pas la faute de Lewis. Pour m'accompagner, passons tout de suite à mes deux chers collègues, comme toutes les semaines. Bonjour Dino, bonjour Enzo.
Bonjour.
Salut.
Je sais, cette phrase était pourrie, mais je l'ai trouvée, je me suis dit... Faut que je la fasse.
Ah, ça vous a pas de plus.
Il était chiant, ce Grand Prix.
Non, il était bien.
Oui. En dehors de 2-3 faits de course, bah... même honnêtement, en dehors de 3 faits de course, il n'y a rien eu d'autre. Faut être honnête, quoi. Jusqu'au 40e tour, on s'est un petit peu fait chier, quand même.
Pas du tout.
Pas du tout. Disons que c'était pas un... C'est vrai, il n'y a pas eu de dépassement.
Ligue, non.
Bah,
c'est
vrai
que... Bien le dire. Non, c'est vrai que les quatre premiers, ce qui était intéressant au début, c'était le fait qu'il y ait quatre pilotes en...
Attends, stop. Il y a Schumi qui double Button qui le redouble au départ.
Ouais, mais passé le deuxième tour.
Ouais, voilà.
Bon, d'accord. Mais déjà pendant deux tours, ça occupe.
Après, voilà, ouais. C'est-à-dire que c'est une course qui, bah, c'est bien. Pour une fois, ça se joue à l'avant. C'est tellement rare que ça se joue à l'avant. Mais à l'arrière, il y a rien eu, quoi. Derrière, il y a strictement rien eu. Heureusement qu'il y a eu les quatre premiers.
Bah, attends, comme d'habitude, il y a Alonso qui nous a fait
une remontée spectaculaire.
Avec des tout petits écarts, hein. À mi-course, les quatre premiers étaient encore en quoi 3 secondes.
Ouais.
C'est rare. Alors, en général, c'est ce qui fait que souvent les courses sans dépassement sont chiantes. C'est que comme il y a de l'écart qui se creuse, après, voilà, c'est fini. Alors que là, bah, il y avait une espèce de tension.
C'est vrai.
Voilà. C'est bien les courses sans ravitaillement. Hein.
Mais ouais. Paradoxalement, on pensait que bon avec les ravitaillements ça ne jouerait plus. Or on a vu, enfin il y a l'arrêt au stand de Hamilton par exemple. Malgré que ça soit encore plus court, eh ben ça compte encore les arrêts.
Bah, non, mais justement le même problème à la roue avec un ravitaillement à essence.
Oui, exactement.
Ça passait inaperçu.
Oui, tout à fait. Ouais.
Très bien.
Oui, mais les courses se jouent toujours dans les stands.
Bah non, la preuve que non.
C'était des circonstances. Mais c'est justement ça qui est intéressant dans cette réglementation, c'est le fait que les écarts soient faibles et que donc la possibilité de mettre la pression et de faire des erreurs est plus grande. Après, voilà, moi, c'est pas non plus un Grand Prix qui m'a rassuré sur toutes mes inquiétudes que j'ai sur la nouvelle réglementation sportive.
Oui, mais surtout pas rassuré sur Ferrari. Mais bon, c'est un autre problème.
Non, c'est un autre problème. Allez. Nous étions donc
non. L'éphéméride.
Si, vous l'aurez, l'éphéméride du 30 mai.
Fou, j'ai préparé.
Les gens en peuvent plus, hein. Faut savoir, hein. Les gens en peuvent plus. Moi, je reçois des mails de...
J'ai tout préparé, je vais être le torpiller, ton éphéméride.
il était tellement content de m'avoir flingué ma question actuelle à Monaco.
Mais maintenant, c'est son grand truc, à chaque émission, il va nous flinguer des rubriques. Méchant.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'éphéméride de Shinji. Une rubrique si drôle qu'éphéméride. c'est un jeu de mots, c'est pas drôle en fait.
Nous étions le 30 mai, la Saint-Ferdinand, et nous allons commencer par le 30 mai, attention, 1431 avec le méchoui le plus célèbre de l'histoire de France. En même temps, il avait dit hein, qu'il s'était préparé.
Mais je vais rien dire pendant cette rubrique. Voilà, je vais le laisser comme ça. Les gens vont se rendre compte que ça peut être encore plus chiant.
Exactement. Alors Enzo, dis-nous, qu'est-ce qui a été créé le 30 mai 1979
De combien?
Le 30 mai 1979.
J'en sais rien, moi.
C'est une société?
Une société.
Microsoft?
Ce n'est pas Microsoft.
Si. C'est un truc de jeu vidéo.
IBM, Nadeo.
C'est un truc de jeu vidéo.
Ubisoft, Sony.
Non.
Un truc que je connais pas, mais j'ai.
Codemaster.
Non, si je te dis Street Fighter.
Oh, ah oui, merde. Alors, je viens de voir un écran Street Fighter avec le nom qui s'affiche.
Avec le logo. Je pourrais dire aussi Megaman.
Non, mais c'est Megaman.
Je pourrais dire Resident Evil.
C'est quoi Resident Evil? C'est. Ah, j'ai le nom.
Moi aussi.
Il va pas sortir.
Eh, dis-nous.
C'est Capcom.
Ah, putaise.
Ah oui, un des géants, un des plus grands éditeurs. Donc, je l'ai dit, Street Fighter, c'est eux. Resident Evil, c'est eux. Les Megaman, c'est eux. Et donc, ils ont 30 ans déjà. Une naissance le 30 mai 1934. C'est Alexei Leonov. Mais qu'a fait Alexei Leonov ?
1934 ?
Il est né en 1934.
Il a fait...
Il l'a fait beaucoup plus tard, je peux même te le dire, il l'a fait le 18 mars 1965.
C'est un sportif ?
Ce n'est pas un sportif.
Un homme politique ?
Ce n'est pas un homme politique.
Un pote à Yuri Gagarin.
C'est un pote, peut-être, à Yuri Gagarin.
Il est allé dans l'espace, non ?
Il est allé dans l'espace.
Bah c'est... en plus, ça c'est mon domaine. En quelle année ?
1965. C'est pas le premier, parce que c'est Yuri Gagarin, ça, c'est connu.
Bah c'est le deuxième ?
Non, mais à l'époque, il y a plein de premiers. C'est le premier homme qui a fait une sortie dans l'espace.
Exactement. Et, entre guillemets, c'est le premier à avoir ouvert la porte.
Ouais, voilà. Mais c'est le premier homme ou c'est le premier russe ?
C'est le premier homme, mais les Américains, c'est genre deux semaines après. Hein, voilà. Donc, à partir du vaisseau Voskhod 2, et donc c'est le premier à avoir, entre guillemets, marché dans le vide spatial. On va revenir beaucoup
et
plus loin.
Et il paraît même qu'il s'est tordu une cheville.
Dans le vide.
Je ne dirai rien.
Pourtant, c'est toi, hein, Dino, qui est fatigué, qui est censé être fatigué ce soir.
Bah ouais, mais... Moi, je garde mes blagues pourries en off, quoi.
Moi, non. Il nous a quitté un 30 mai, c'était en 1778. Il était français, et je dirais juste qu'il aimait cultiver son jardin.
Voltaire.
Chanteur. C'est Voltaire. Oui, puisque c'est la phrase finale de Candide, où après avoir traversé les quatre coins de l'Europe, il revient chez lui. Le livre finit par « Oui, il faut se finir, voilà, se cultiver son jardin. » Ouais, non, mais ça a un sens philosophique et jardinistique aussi.
Peut-être.
Sans doute. Les fêtes du jour. Alors, il n'y a pas de fête internationale, mais je ne pouvais pas rater. Au Pérou, il faut savoir qu'au Pérou, le 30 mai, c'est la journée nationale de la pomme de terre.
Ah oui, c'est ça.
Voilà. J'ai rien de te dire. Voilà, c'est... Les pommes de terre au Pérou ont leur journée.
C'est le même jour que la fête des mères. No comment. J'y peux rien.
Et alors, en F1, le 30 mai, eh bien, on va pas revenir sur un 30 mai. Non, non, non.
Ah non.
On va revenir sur le 30 mai 1950, 1951, 1952, 1953, 1955, 1956, 1957.
Ah bah c'est les Indy 500.
Ce sont les Indy 500. Sauf en 54. En 54, il avait lieu le 31.
Bah, ça a aussi eu lieu le 30 mai cette année.
Ah oui, en 2010, oui, ça a eu lieu le 30 mai. Mais là, en plus, ça tombait un dimanche.
Ouais, c'est vrai.
Alors que...
C'est pas...
Eh oui, ce sont les années... On va parler des Indy 500 de cette décennie qui comptaient, en effet, pour le championnat du monde de F1. Enfin, qui comptaient, c'est un peu spécial, hein, parce qu'ils avaient un règlement spécifique, déjà. Et alors, pour vous dire à quel point c'était à part, c'est que les Indy 500 en 1959 et 1960 avaient une particularité au niveau de la date.
Vous avez eu le même jour que Monaco ou un truc dans le genre, non ?
Alors, en 1960, c'était le lendemain du Grand Prix de Monaco. Et en 1959, c'était la veille du Grand Prix des Pays-Bas. Alors, course à part aussi, parce que la plupart des pilotes, bien évidemment, qui roulaient à l'Indy 500 ne participaient pas au reste du championnat du monde de F1. Et pourtant, il y a quelques pilotes qui s'y sont essayés. Alors,
du jour au lendemain?
Alors, c'est pas sur ces deux années-là, 59 et 60. Mais il y a des pilotes qui ont tenté le coup de faire, on va dire, le championnat du monde de F1 et de tenter faire les 500.
Ah, mille. En 65, il y a,
Je parle vraiment de cette période 50-60, hein, où ça comptait.
Bah, Fangio, on va dire.
Bah tous, parce que ça comptait dans le championnat.
Mais non, mais 90% des pilotes qui ont fait l'Indy 500 participaient pas au reste du championnat du monde de F1.
Oui, mais je pense quand même que 90% des pilotes qui faisaient le championnat de F1 participaient aux Indy 500 si ça comptait.
Bah non. Et t'as raison, Enzo, de dire Fangio. Il y a Fangio en 58 qui s'est engagé. Il a même pas réussi à se qualifier.
Bah il y a Clark.
Farina.
Il y a Farina en 56.
Il y a Clark vers les années 50 et quelques.
Il y a Clark, mais c'est 60. Plus tard. Ça comptait plus pour le championnat du monde.
Après 60, Clark.
Ouais. Par contre, il y a Farina en 56 sur une Curtis Craft à moteur Ferrari, et lui, pareil, il a pas réussi à se qualifier.
Gonzalez.
Non.
Non.
Je sais pas.
Comment il s'appelle
Les Français. Trintignant.
Non, pas Trintignant.
Farina? Non.
Farina, on l'a Farina, dit.
Tu l'as dit en plus.
Tu l'as dit, Farina?
Oui, tu as dû le
oui,
dire.
Oui, tu l'as dit. Il y a en 52. Sur une Ferrari.
Ah 52. Bah attends, 52, pouf, qui c'est qu'il y avait? Mais oui, je le connais que lui. Ah putain.
Oui, c'est un champion du monde en plus.
Mais oui, mais je le cherche.
Non, c'est pas pour toi, hein, c'est pour Dino, je sais que toi...
Bah bon, genre, je connais Fangio, Farina...
Ascari, oui, Ascari, qui lui a réussi à se qualifier.
J'oublie tout le temps. C'est...
Il s'est qualifié 19e, alors par contre, il a fini 31e de la course sur 33, il a fait que 40 tours sur 200. Et c'est les seuls, sur cette période, 1950-1960.
Donc ce qui veut dire qu'en fait, que sur les années où l'Indy a compté dans le championnat de Formule 1, en fait, ça comptait, mais il y avait quasiment que des pilotes d'Indy qui participaient à cette épreuve-là, il y avait quasiment aucun pilote de F1 qui y participait, donc ça...
T'as tout compris.
Que ce soit dans le championnat ou pas, ça servait à rien. Quoi.
Voilà, c'était vraiment à part. Et alors aussi,
ça permettait qu'il y ait des pilotes américains qui marquent des points au championnat du monde de F1.
Ouais. Et puis l'idée en 1950, c'est que c'est vrai que sur le premier championnat, la plupart des courses étaient en Europe, donc en prenant en compte Indy, ça donnait un peu du sens au terme de championnat du monde.
Ouais.
Pour leur faire plaisir, un américain.
Voilà. Sinon. Vous savez quand même que l'Indy 500, vous savez, c'est les courses à l'américaine, elles sont très longues.
Hein. Oui.
Et sachant qu'en Europe aussi, à cette époque, il y avait aussi des très longs circuits, on avait aussi des courses parfois très longues. Alors, si on prend les 10 courses les plus longues de l'histoire de la F1, d'après vous, combien il y a d'Indy 500 dedans?
Sur les 10 plus longues?
S'il est sur les 10 plus longues de l'histoire de la F1.
9.
Il y en a 9.
Ah, trop fort, je connais la statistique.
La seule qui s'intercale, c'est l'Allemagne 1954, qui est 7e.
Nürburgring.
Voilà, exactement, au Nürburgring. D'ailleurs, on retrouve, en fait, Indy et Allemagne, Nürburgring, entre guillemets, se partagent, en fait, toutes les places, toutes les 14 premières places.
Et c'est quoi la durée?
Alors, la plus longue, c'est l'Indy 1951, 3h57.
Donc, il n'y avait pas la limite des 2h en F1, alors?
Non, et Allemagne 1954, c'était 3h45.
Je pense que la limite des 2h est venue avec la télé.
Peut-être, ouais.
Ça serait pas étonnant, parce que là, je regarde comme ça le plus loin dans le classement, on a des courses, oui, jusqu'à... Je vois un Canada 1967 qui durait quand même 2h40.
Je chercherai aussi, si j'ai le temps.
Et alors donc,
si paradoxalement,
paradoxalement, c'est
pas,
vrai...
Hein.
Non, mais...
Comme ta rubrique est à chier, on l'interrompt.
Nos auditeurs vont apprécier ce moment.
Je suis payé par les auditeurs.
Et donc, paradoxalement, c'est depuis que l'Indy 500 ne compte plus pour la F1 que des pilotes de F1 ont eu le plus de succès. Alors, vous avez parlé de Clark. Est-ce que vous vous souvenez quelle année il a gagné?
Oh, 62.
Presque. 65. Et vous avez d'autres noms? Stewart ne l'a pas gagné.
Graham Hill
en 1966.
Ah oui, il a fait la triple couronne.
Phil Hill, non?
Pas Phil Hill.
Andretti, forcément. Mario.
Mario Andretti, 69. Lui, oui, il l'a même fait avant de devenir en F1.
Michael Mansell.
Mansell y a participé. Il a été champion d'IndyCar, mais n'a pas gagné les...
Villeneuve
en 95.
Montoya.
Montoya en 2000. Le seul... pilote de F1 à avoir gagné l'Indy 500 sans être devenu champion du monde de F1, d'ailleurs.
Et si, il y en a un autre.
Il y en a un autre qui l'a gagné deux fois, même, l'Indy 500.
Il s'est cassé les jambes, là, qui était chez chez Williams avec Ralph.
Non.
Il l'a pas eu, lui?
Non.
Comment
non.
Il s'appelle?
Il a dû participer.
Celui qui est passé en WTCC après.
Zanardi.
Zanardi, voilà.
Zanardi, il l'a pas gagné.
Non, il l'a pas gagné.
Et il y a participé.
Oui, certainement. De toute façon, en participant à l'IndyCar,
Et ben après t'as comment il s'appelle Emerson Fittipaldi et
Emerson, oui en effet, l'a gagné deux fois en 89 et 93.
Il y a son neveu qui a fait comment il s'appelait son neveu Christian. Christian oui. Fittipaldi, il y a participé je pense, non?
Oui mais oui, il a jamais gagné je pense pas en tout cas.
Emerson Fittipaldi qui avait créé un scandale à l'Indy 500 parce que traditionnellement à l'Indy 500 le vainqueur boit une bouteille de lait.
Papa, c'est quoi cette bouteille de lait?
C'est une vieille tradition qui date des années 20. Et en fait, je crois que c'est en 93, au lieu de boire une bouteille de lait, il a bu une bouteille de jus d'orange pour faire la promotion de ses cultures de jus d'orange au Brésil.
D'accord.
Chose anodine, mais bien évidemment, là-bas, aux États-Unis, voilà, c'est une grande tradition. Alors, il paraît qu'il a bu quand même la bouteille de lait, mais une fois que les télés étaient partis. Ouais. Et donc, en effet, il y a d'autres pilotes qui ont été champions du monde de F1 ou pilotes de F1 qui ont participé à l'Indy 500. On parlait de Mansell. Nelson Piquet aussi a participé. Et même cette année, en 2010, il y a deux pilotes.
Bah, Sato et l'autre, c'est... Alors, il y a Baguette qui est dans les coulisses de la F1. Il y a Sato et il y a Wilson, Justin Wilson.
C'est ça. Justin Wilson qui a fini 7e cette année et Sato, lui, a fini 20e sur une IndyCar aux couleurs de Lotus. Non. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui.
Allez, ça s'est passé. Youhou.
Non, mais c'était bien. Si.
Alors, dis-nous.
Eh ben alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh ben, on va faire le Poleman de l'actu.
Ah, ça revient du coup.
Oui, j'ai décidé que ça revenait pour deux raisons, parce que je pense que j'ai eu des bons retours de quelques-uns de nos auditeurs. Qui nous ont dit qu'ils appréciaient. Et en plus, ça va me permettre de garder mes idées bien au chaud pour d'autres activités parallèles. Voilà. Genre le renouveau du site d'Enzo. Donc voilà, donc on reste sur la même formule que la dernière fois. Un petit jeu en trois parties. Première partie, question pour un champion. Deuxième partie, le sprint de l'actu. Et troisième partie, la fameuse question actu qui passe inaperçue.
La dernière fois, elle était pas inaperçue.
Oui, non, c'est vrai. Elle, elle est passée. Non, mais tu l'as dit au bol, arrête. Donc, alors, comme nous sommes en Turquie, vous avez le choix entre... Alors, comme c'est Shinji qui a perdu la dernière fois, je pense qu'on propose à Shinji de choisir le menu en premier.
Ouais, comme la dernière fois, quoi.
Voilà. Je sens que je vais souvent le choisir, le menu.
Non, mais on a l'habitude, maintenant, c'est les perdants qui choisissent en premier, donc voilà.
Je m'en fous, je choisirais le fait de la course.
Donc, Shinji...
Et je suis sûr de gagner.
Ouais, ça m'énerve, j'étais dernier, j'étais content d'être dernier. Et qu'est-ce que je vois ce matin? Merde, je suis plus dernier.
Donc, vous avez le choix. Alors, Shinji, tu as le choix entre deux questionnaires.
Ouais.
Un questionnaire, puisque nous sommes en Turquie, un questionnaire kebab.
Kebab. J'en ai
pas. J'étais sûr qu'il allait sortir un truc comme ça.
Et un questionnaire hummus.
Ah, j'ai cru que t'allais dire le coup. Mais c'est pas grave.
Donc, choisis-tu entre le kebab et le hummus?
Ah, bah, le kebab.
Le kebab. Et donc, tu commenceras, puisque c'est sûr, c'est mon premier questionnaire que j'ai sous les yeux, donc ce sera kebab. Donc, j'ai un peu revu le concept, hein. Vous marquez donc progressivement soit 4, 3, 2, puis 1 point en fonction du moment où vous répondez à la question.
Ouais.
Et alors, j'ai un petit peu changé puisque là, cette semaine, vous allez devoir deviner quelque chose. Hein, d'accord, il y a la réponse à la question. Et si vous arrivez à trouver l'actu qui se cache derrière cette réponse, vous doublez vos points.
Ouh.
D'accord. Bon, c'est pas non plus tiré par les cheveux.
Bon, bah non, on ne connaît pas déjà.
D'accord, donc Shinji... Pour m'arrêter, tu n'oublies pas de dire
kebab.
Kebab, d'accord.
Non. Oui.
Eh oui.
Bah si, il faut bien arrêter.
Moi, je dirais Enzo, moi.
Non, tu diras hummus. Sinon, je continuerai. Alors, chez Didier, tu es prêt?
Il faut bien.
Chers auditeurs, attention en bas de votre écran, enfin de votre transistor. Indice. Né le 21 octobre 1984, non loin de la ville d'Obama au Japon, je débute précocement ma carrière avant de me faire rapidement connaître auprès des spécialistes grâce à Peach John. Apparu dans les paddocks au cours de la saison 2009, je succède à Florence Brudonel Bruck qui était restée 2 ans et à Louise Griffiths qui avait bien failli s'engager sur le long terme. Fille d'un père argentino-hispano-italien et d'une mère japonaise, j'ai su charmer le paddock et surtout conquérir l'un des playboys de la forme...
Kebab!
Oui?
Nicole... Des Pussycat Dolls.
Non, c'est pas elle.
Ah, oh, merde.
Eh, franchement, si tu me poses des questions comme ça à moi, c'est foutu, hein.
Tu vas aimer la tienne. Donc, je continue. Et surtout, conquérir l'un des playboys de la F1. Dans le garage de McLaren, ma seule rivale était une des chanteuses des Pussycat Dolls.
Bah, Kebab, la petite amie de Button.
Oui, qui s'appelle effectivement Jessica Michibata. Donc, tu marques un point. Et pour doubler ton point, ouais. Peux-tu nous dire quelle est l'actu qui est liée à Jessica Michibata?
Si je trouve, je marque un point.
Si tu trouves, tu marques ses points à lui.
Elle va se marier avec Button?
Non.
Ils se sont séparés.
Ils se sont séparés. Voilà. Donc, il te pique tes points.
Doublé, bien sûr.
À doublé, bien évidemment. Donc, Enzo marque 2 points et Shiji en marque 0. Non. On va dire Shiji parce qu'il a trouvé Mishibata. Il marque 1 point.
Oui.
Et Enzo, ouais, il marque le point doublé. À quel point Shinji t'es à couvert?
Qu'est-ce que je dis? Moi, je dis Enzo. Hein,
sans... Oh non, tu peux dire Hummus. C'est bon, le Hummus. Alors, Enzo, es-tu prêt?
Ouais, je suis prêt.
Chers auditeurs, attention, indice en bas de votre iPhone. Et créé en 2002, je suis né dans les bureaux d'études de Tom Fexas, qui me vendit à Roy Speer, milliardaire ayant fait fortune en lançant une chaîne de téléachat aux États-Unis. Après avoir été vendu, j'abandonne mon nom de baptême et reprends les initiales de mon propriétaire, qui loue mes services occasionnellement pour la bagatelle de 245 millions d'euros par semaine, selon certaines estimations. Et véhicule... Oui ?
Ah, véhicule.
Ah, véhicule.
Le châssis Lotus.
Non, je continue. Véhicule dodécaplace, long de 63 mètres et propulsé par deux moteurs Caterpillar 3512B, je peux atteindre les 30 km/h en vitesse de croisière. En 2010, je fais une entrée remarquée dans le port de Monaco où mon propriétaire fait son retour. Je suis. T'as pas la réponse?
Non.
Shiji, est-ce que tu as une proposition pour prendre un point?
Le bateau de Flavio Briatore.
Oui, bravo Shiji. Et Shiji se venge, j'ai reprend un point. Et donc, est-ce que vous savez pourquoi?
Il a dû payer au fisc.
Priorité à Enzo.
Enzo.
Voilà, il a dû payer au fisc italien parce que voilà.
Bah, le bateau a directement même été saisi parce qu'en fait Flavio Briatore déclaré, enfin parce que son bateau est déclaré dans les Antilles, etc. Il ne payait pas ses impôts au fisc italien, sauf que le fisc italien dit qu'un bateau qui réside en Europe et dont le propriétaire est un résident européen doit payer ses impôts en Europe, auquel s'ajoute le non-paiement d'une taxe sur le gasoil. Que consommait le bateau.
Donc 2-2.
Donc, nous sommes ex aequo avant le sprint de l'actu. Sprint de l'actu dont vous connaissez le principe. Vous avez 10 questions.
Est-ce qu'après, quand tu repasses les questions, l'autre peut répondre et gagner des points?
Oh non, après ça devient chiant. Non. Donc, attention. Shinji, tu es prêt?
Ouais.
C'est parti. Quelle ville devrait accueillir à partir de 2012 le Grand Prix des États-Unis?
Austin.
Selon la rumeur, quelles écuries pourraient fusionner d'ici la fin de saison?
Art et Sauber.
Tout à fait. Qui a déclaré, je cite, « Michael préfère un train avant très direct. Chez Benetton, Patrese, Verstappen et moi avons tous eu des problèmes. Je serais surpris que Nico soit satisfait d'une voiture que Michael apprécie. »
Je passe.
Et quel pilote japonais a fait son retour en F1 vendredi matin chez HRT?
Yamamoto.
Tout à fait. Pour quelle raison Niki Lauda a-t-il dû s'excuser publiquement auprès de Robert Kubica?
Je passe.
Qui a remplacé la pulpeuse par la libidineuse?
Vettel.
Tout à fait. Quelle proposition a fait Tony Fernandez de Lotus pour rendre les courses plus intéressantes?
Je passe.
À qui Lewis Hamilton a-t-il dédié sa victoire turque?
À Nicole.
Faux. Oh. Combien d'équipes se sont-elles déclarées candidates pour intégrer le championnat la saison prochaine?
15.
Tout à fait. Selon la presse britannique, comment Red Bull espérait-elle augmenter ses rentrées d'argent?
En vendant son titre, enfin avec le...
Tout à fait.
Avec un sponsor son titre.
Question. Qui a déclaré Michael préfère un train avant très direct chez Benetton, pas 13. Verstappen et moi avons tous eu des problèmes, je serais surpris que Nico soit satisfait d'une voiture que Michael apprécie aussi. C'est fini, une tente. Alors, ça nous fait combien de points ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6 points.
C'est bien, hein?
Ce qui nous fait un total de 8 points.
Moi, j'ai les 4 réponses qu'il a ratées.
Alors, justement, on va revenir sur les questions qu'il a ratées. Qui a déclaré, donc, Michael préfère un train avant très direct chez Benetton, Patrese, Verstappen et moi, c'était un indice, avons tous eu des problèmes. Je serais surpris que Nico...
Handel.
Non, c'est Gigi Leto.
Ah, j'ai failli le dire en plus.
Ensuite, pour quelle raison Niki Lauda a-t-il dû s'excuser publiquement auprès de Robert Kubica?
Parce qu'il l'a traité de Polak.
Oui, il a l'habitude, hein, parce qu'il commente les courses en Allemagne, je crois. Et il a l'habitude de parler de Kubica en disant de Polak, et on lui a demandé après de s'excuser auprès de du Polonais. Ensuite, quelle proposition a fait Tony Fernandez de Lotus?
Il aimait les drapeaux bleus.
Voilà.
Ouais, c'est ça, oui.
Et t'as failli dire, Christophe. Hein. Et enfin, dernière question, à qui Lewis Hamilton a-t-il dédié sa victoire turque?
À son père.
À son père. À son père. Alors attention.
Je vais avoir les durs, moi, maintenant.
Non, pas forcément. Attention, Enzo, es-tu prêt?
Mm-hmm.
Et c'est parti. Pour quelle raison Ferrari arborait-elle le nombre 800 sur son capot moteur?
Le nombre de grands prix disputés.
Tout à fait. Sous quel nom autre que le sien, Volkswagen envisage-t-elle de pouvoir venir en Formule 1?
Proton.
Faux. Qui a déclaré « On me disait que j'en apprendrais plus en un an là-bas qu'en cinq ans aux États-Unis, mais j'avais vraiment l'impression de remonter le temps. Les femmes ici sont cantonnées à la cuisine et au lavage. »
J'en sais rien.
Quel pilote est pressenti pour effectuer des tests automatiques 2011?
Je passe.
Ce week-end, quelle écurie a participé au Grand Prix de Formule 1 ainsi qu'aux 500 miles d'Indianapolis?
Lotus.
Tout à fait. Quel accessoire a fait écouter une pénalité à Lewis Hamilton?
Je passe. Téléphone portable.
Approximativement à quel montant les ordinateurs du Grand Prix d'Inde entendent-ils vendre leurs billets?
20 euros.
Bien. Quelle menace pèse sur le Grand Prix du Canada?
Je sais pas.
À la veille de quel Grand Prix Lewis Hamilton devra-t-il répondre à de ses actes devant la justice australienne?
Allemagne.
Faux. Pour quel Grand Prix Bernie Ecclestone a-t-il consenti revoir à la baisse ses exigences financières?
Aucune idée. Espagne.
Faux. Qui a déclaré « On me disait que j'en apprendrais plus en un an là-bas qu'en cinq ans aux États-Unis, mais j'avais vraiment l'impression de remonter le temps. Les femmes sont cantonnées. » Non, c'est faux et j'arrête.
Mais j'avais raison, c'était plus dur.
Donc, alors ça nous fait 1 point, 2 points, 3 points. Ça nous fait 3 points. Ça nous fait 8 à 5 en faveur de Sudi.
La question à Sudi.
Donc, on revient sur les questions qui n'ont pas eu de réponse. Sous quel nom autre que le sien, Volkswagen envisage-t-il de pouvoir venir en F1?
Porsche.
Oui.
Et Audi.
Et Audi, tout à fait. Qui a déclaré, on me disait que j'en apprendrais plus en un an là-bas qu'en cinq ans aux États-Unis, mais j'avais vraiment l'impression de remonter le temps. Les femmes sont cantonnées à la cuisine et au lavage.
Danica Patrick.
Tout à fait. Hein, qui a été d'ailleurs très critique envers la Formule 1 dans une interview récente. Quel pilote est pressenti pour effectuer les tests pneumatiques 2011?
Spitefeld.
Oui, c'est Spitefeld. En tout cas, c'est Pirelli. Oui. Quel accessoire a failli coûter une pénalité à Lewis Hamilton? Alors en plus, Enzo devrait le savoir parce que je lui en ai parlé. Il portait des boucles d'oreilles.
Ah.
Et il s'est murmuré à un moment donné qu'il ne retirait pas ses boucles d'oreilles pour piloter. Et il y a un article qui dit que les pilotes ne doivent pas porter de bijoux ou de piercing. Et dans ce cas-là, il aurait pu avoir une pénalité.
Et pourquoi il ne l'a pas eu?
Parce qu'apparemment, il les retire. Ou il a juste...
Bah non, il...
On n'a pas beaucoup parlé.
Sur le podium, on l'a vu avec.
Mais oui, mais en fait, sur le podium, tu le verras aussi avec une montre. Mais c'est parce que quelqu'un lui donne la montre avant de monter. Donc peut-être qu'on lui a donné les boucles d'oreilles et qu'il s'est dit, pour la photo internationale, je vais avoir l'air d'un bad guy. Voilà. Ensuite, alors, je vais revenir sur ça là, même si t'as bien répondu. Approximativement, à quel montant les organisateurs du Grand Prix d'Inde entendent-ils vendre leurs billets? C'est 21 euros. Bon, t'as dit 20, je compte bon, hein. Parce que
oui.
C'est quand même plus proche des standards que des prix qu'on connaît aujourd'hui, qui sont entre 500 euros et des quelques. Alors, pour savoir que ça fait 100 ringgins, hein, en Inde. Je sais pas si ça vous aide.
Pas du tout.
Ensuite, quelle menace pèse sur le Grand Prix du Canada?
Je sais pas.
Eh ben, il y aurait un problème de canalisation sous le Grand Prix du Canada. Et donc, avec un peu de chance, on pourrait se retrouver avec une piste mouillée, même s'il n'y a pas de pluie. Et enfin, à la veille de quel Grand Prix Lewis Hamilton devra-t-il répondre de ses actes devant la justice australienne? C'est lors du Grand Prix de Belgique. Et la dernière question, j'ai oublié. Pour quel circuit Bernie Ecclestone a-t-il consenti revoir à la baisse ses exigences financières? C'est Hockenheim. Donc, ça nous fait 8-5. D'accord? Shinji mène d'une toute petite tête. Mais,
oui, mais on...
ce n'est pas fini,
puisque la question actuelle qui passe inaperçue peut rapporter la bagatelle de 10 points.
Le service après-vente de la F1 vous présente la question actuelle qui passe inaperçue. Youhou, l'actu, où es-tu?
Donc la question actu qui passe inaperçue de cette semaine est: quelle est l'origine de l'enthousiasme de Johnny Herbert ce week-end?
Mais il était commissaire.
Il n'était pas particulièrement heureux d'être commissaire.
C'est un doublé anglais?
Non.
Moi, il m'a appelé. Il m'a dit qu'il était heureux parce qu'il y avait un doublé anglais.
Oui, mais moi, il m'a pas appelé. Donc, ça peut pas être ma réponse.
C'est lié à la course?
Pas spécifiquement.
C'est lié au lieu?
Non. Est-ce que c'est lié à quelque chose? Non.
Quelque chose qu'il a fait pendant le week-end?
C'est pas quelque chose qu'il a fait pendant le week-end, mais c'est quelque chose qu'il a découvert pendant le week-end. Enfin, il a sans doute découvert pendant le week-end.
Ah, il était jamais allé en Turquie?
Non.
Pouf.
Alors, on fait moins les marioles. Alors, on m'a flingué ma question il y a deux semaines, et ben là, que dalle.
Parce que je ne sais rien, moi.
Qu'est-ce qui peut rendre heureux un pilote de Formule 1, ou plus généralement?
Parce qu'il a essayé une voiture, une nouvelle F1.
Non, il n'a pas essayé une nouvelle F1.
Il a été... On lui a offert une voiture, la voiture avec laquelle il a,
non,
il a gagné.
Non, on lui a rien offert. Mmh.
Il a testé quelque chose?
Il a peut-être testé quelque chose. En tout cas, il aurait pu le tester. Et je sais que ce quelque chose lui aurait fait plaisir.
Un simulateur?
Pas un simulateur.
Une voiture? Un véhicule?
Non, pas un véhicule.
Il a testé des produits culinaires turcs?
Non, puisqu'il est revenu vivant, donc non.
Le nouveau iPad?
Ah, on se rapproche.
Il a essayé un nouveau téléphone ou un nouveau produit électronique?
Une console?
Ça a un rapport avec l'iPad.
Eh ben, un nouveau jeu, un nouveau livre numérique?
Non, pas un livre.
Une musique?
Pas une musique.
Une vidéo?
Pas une vidéo. Il en fait des choses de l'iPad.
Un nouveau programme. C'est un nouveau programme.
Il a découvert Internet.
Non, il n'a pas découvert Internet.
Une nouvelle application.
Une nouvelle application. Laquelle?
Pour suivre la
l'application F1.
Alors, je la donne à qui cette réponse?
Je l'ai dit avant.
Allez, honnêtement, c'est Enzo qui était quand même plus sur le chemin. Je donne les 10 points à Enzo. Pour la deuxième fois consécutive, alors qu'il est mené, Enzo l'emporte 15 à 8.
Désolé, Shinji.
Non, mais Shinji, il a peut-être les nerfs, mais... Alors effectivement, est sorti la semaine dernière, à l'occasion de la sortie mondiale de l'iPad, est sortie l'application pour suivre la F1 de l'iPad. D'accord. Et... Herbert fait partie des nombreux adeptes de l'application F1 pour iPhone et il a chaleureusement accueilli dans une interview, hein, il a dit que voilà, pour lui, cette application sur l'iPad, c'était super génial pour les fans, que ça allait permettre d'accentuer l'immersion dans la F1. Voilà, parce qu'il y a plus de détails, parce que c'est plus grand, parce que voilà. Bon. Alors, l'application est toujours proposée par Soft Power et elle a été sélectionnée comme étant l'une des deux applications sport qui accompagnent la sortie mondiale de l'iPad. Et je peux vous dire déjà, pour vous qui êtes intéressés, hein, je pense notamment à Globen qui fait des articles sur l'iPad sur son blog, que cette application est d'ores et déjà disponible en anglais, en français et en allemand, ce qui a sans doute dû servir à Sébastien Vettel à la fin de la course. Et qu'elle sera bientôt disponible en espagnol et en italien, ce qui est peut-être l'évolution tant attendue du côté de Maranello pour aider enfin la Scuderia à ne plus perdre en piste avec Fernando Alonso. Donc, quel est le prix de cette application, me direz-vous?
20€.
Vu que déjà celle pour iPhone est bien chère...
Pour l'iPad, elle est plus grande, donc elle est plus chère. C'est 25,99€. Et faut être honnête, ça consiste surtout en une mise à niveau de l'application iPhone, aux dimensions et aux capacités techniques de l'iPad. Donc voilà, si vous avez celle sur l'iPhone, ça sert à rien d'acheter un iPad pour avoir l'application sur iPad.
D'autant plus que, je le dis bien fort, elle est tout pourrie. Et il y a une autre application gratuite,
oui,
sur la F1 qui est nettement mieux, que je peux pas vous donner le nom pour l'instant parce que je suis en train de downloader les mises à jour de l'application F1 justement. Que j'ai lancé à l'occasion. Non, mais c'est pas dégueulasse comme application. Franchement, je suis un peu déçu par cette application de. Et l'autre que j'aime bien, donc j'encourage tous ceux qui ont un iPhone à l'acheter, vu qu'elle est gratuite d'ailleurs, du moins à la télécharger. Ça s'appelle Fan F1 Live. vous y retrouvez l'actu, les classements, et puis c'est joli en plus.
Ah bah.
Et ceux qui me connaissent savent que j'aime les applications ou des sites jolis.
Donc voilà, c'était tout pour la question actu et pour le Poleman de l'actu remporté une deuxième fois par Enzo.
Yes.
J'ai dit, il va falloir que tu travailles.
Ah, j'y étais presque, hein.
Mais oui, mais t'es
oui,
bon.
Oui, mais ça suffit pas.
T'es bon jusqu'à la Q3, et puis en Q3, tu te casses la gueule.
On passe à la course?
Oui.
Donc, on va d'abord la qualif. Les qualifs qui commencent, enfin.
Place du con, pardon.
Oh bah, on peut commencer par la place du con, hein.
Oui, bah oui. De toute façon, on sait que c'est le dernier, donc...
Voilà. On sait exactement
oui,
qui
oui, mais quand même.
Ah.
Il faut peut-être en parler des six derniers, parce qu'il y a du changement.
Ah oui, on peut noter déjà que, pour une fois, il n'y a pas les deux HRT sur la dernière ligne. Et ça, même, c'est grandiose.
Oh, c'est bon, ils sont à la masse comme les Virgin. C'est pas les HRT qui ont progressé, écoute, c'est les Virgin qui ont régressé.
Peut-être, mais...
Ah, peut-être, mais...
Ah, c'est symbolique, on est bien d'accord.
HRT 22e, quand même, faut le doter. Sinon, comme d'habitude, devant, enfin, on va dire, les meilleurs des nouveaux, c'est les Lotus.
Oui.
Hein. Et qui sont vraiment approchés, quand même.
Ah oui.
Mais là, alors, on a eu une remarque assez rigolote de
une pique assez drôle.
Tony Fernandez qui a dit, maintenant, on est à plus qu'à une seconde des Williams. Et on est, avec 7 Grands Prix dans notre histoire, on est qu'à 2 secondes et demie d'une écurie qui en compte 800. Parce que c'est vrai que chez Ferrari, on est très 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 méchant envers les nouvelles équipes.
Oui.
Mais faut pas qu'il espère gagner une seconde à chaque Grand Prix quand même, le brave monsieur.
Non. Ah, disons que c'est facile de gagner des secondes au départ, après c'est beaucoup plus difficile, il y a qu'à voir comment Ferrari rame dans ce domaine. Oui.
Et donc, cette semaine, à la 18e place, on retrouve une Force India, Yudi. Ça faisait longtemps,
quoi. Une fois n'est pas coutume, quand même.
Oui, c'est dingue, parce que il y a 2 ans, on aurait trouvé ça normal, et puis voilà. Là, ça surprend. À noter en Q2 aussi, faut le dire, Fernando Alonso qui ne s'est classé que 12e. Là encore, c'est rare.
Ouais. Mais je me demande.
Il a fait une petite erreur, faut pas l'oublier.
Non, c'est la faute de sa voiture.
Non, mais ils sont sortis tard aussi, non?
Hein?
Ils sont sortis tard, il me semble.
Aussi, oui. Ça a été un triste week-end pour le 8.
Non, mais ils sont sortis tard aussi, non?
Hein?
Ils sont sortis tard, il me semble.
Aussi, oui. Ça a été un triste week-end pour le 800e Grand Prix de Ferrari.
Ah bah, oui.
Sur 827 Grand Prix, hein, quand même. Hein. 800 sur 827.
Lesquels ils ont raté?
On va pas faire la liste des 27.
Je sais qu'ils ont raté le premier. Après, les 26 autres...
Bah, on en a parlé, hein, ils ont raté le 9 mai 82 à la mort de Villeneuve.
Ouais.
Et donc, en pôle, encore une fois, ils toujours, hein. Alors, pour une fois, ils n'ont pas les deux premières places, ils ont que la première, c'est Red Bull.
Ouais.
Mark Webber en 1.26.295. La 5e pole position pour Mark Webber, la 12e pour Red Bull. La 167e pour Renault a une moyenne de 222,687.
Qui a bénéficié cependant, on peut quand même le dire, du fait que Vettel apparemment a eu un problème de... Enfin, une casse sur sa barre anti-roulis. Que la voiture de Vettel, ce qui rend la qualification de Vettel plutôt sympa, d'être troisième malgré cette casse-là, qui rendait la voiture très difficile à contrôler dans son tour rapide.
Et donc, quand il dépassait son coéquipier aussi.
Oui. À noter quand même sur la qualification que moi j'ai beaucoup comparé pendant ce week-end la Turquie à Barcelone parce que c'est vrai qu'on remarque que les écuries qui étaient en forme à Barcelone le sont. Je pense à McLaren par exemple qui était en forme à Barcelone et qui l'a été en Turquie. Les écuries surprenamment pas en forme comme Ferrari ne l'étaient pas non plus à Barcelone. Et on parlait tout à l'heure de Liuzzi là il se qualifie 17e et à Barcelone il est 16e. Alors que la Force India vaut normalement mieux que ça. Donc, on est là sur un circuit qui ressemble quand même beaucoup à Barcelone, je trouve.
Ouais.
Et donc, on note les McLaren intercalés, deuxième et quatrième.
Santé. Petrov en Q10 aussi, en Q3.
En Q3, exactement. Et Kobayashi en Q3.
Et Kobayashi.
On s'en fout de Kobayashi.
Ouais, franchement, je suis assez d'accord.
On sait déjà qu'il va avoir des points, alors c'est bon.
Non, tu plaisantes.
Bah oui, il va avoir des points.
Il n'y a pas quelqu'un qui l'a mis dans le classement, quoi.
Bah, il y en a forcément un.
Allez, on va passer au classement.
Oui.
Oh mon dieu, attention.
Oui, parce que j'en ai vu certains auditeurs qui te mettent Senna premier.
Oui, oui. Alors ça, c'est, oui. Je crois que c'est Gouen, mais parce qu'il avait dit pendant le chat, pendant le Grand Prix, il avait dit que, voilà, vu que c'était le bordel, il mettrait Senna premier.
Donc, sont cités, mais ne sont pas dans les points. Massa. En fait, Massa s'est retrouvé 9e ex aequo, exactement, pour être précis, par les auditeurs. Voilà. Est avec Massa. Senna, en effet. Parce qu'en fait, Globel a vraiment été le seul. Donc, étant seul parmi cette vote, forcément, ça a diminué, et sachant qu'après, il y a la moyenne et tout. Donc, Senna, rassurez-vous, ne fait pas partie du top 10.
Alléluia. Ouf.
Non, mais on espère que Senna le sera un jour dans le classement, mais parce qu'il l'aura vraiment mérité, quoi.
Voilà.
Oui, voilà. Ne fait pas partie du top 10. Adrien Sutil.
Oh.
Faut dire que moi, je l'avais mis 10e, mais bon, c'était vraiment pour combler. Et toi, Dino, tu l'avais mis 9e.
Ouais, bah c'est pareil, pour combler.
Et ben moi, je l'ai pas comblé.
J'ai même mis, j'ai sur ma feuille, alors il y en a qu'un qui n'a pas de ligne, et lui, il a juste une petite ligne où j'ai écrit là où je l'attendais, ni plus ni moins. Voilà.
Ne fait pas non plus partie du top 10, Kubica. Kenzo, tu avais mis 10e. Moi, je l'avais mis 8e, mais même là, c'était plus pour remplir, en fait, parce que j'avais 7 bien, mais après... Toi, Enzo, quelque chose à te dire, peut-être, sur Kubica?
Non, c'était pour combler.
Fait partie du top 10. Déjà, je vous dis un truc en exclusivité, il n'y a pas d'ex-aequo cette semaine.
Ah, chouette.
Et attention, parce qu'en 10e position, nous retrouvons le pilote Lotus. N'est-ce pas, Dino? Et Kiko Valainen.
Il n'y a que moi qui... Non, il y a quand même des gens qui...
Tu l'as mis encore 5e ou un truc comme ça?
Non, j'ai mis 7e.
Il est 7e. Il y a Iceman Air qui l'a mis 10e.
Il y a que moi et Iceman qui l'avons mis?
Ouais.
Et pourquoi il est là alors?
Bon, moi comme... peut-être même encore plus que Di Grassi, je sais plus qu'à Grand Prix où il s'était en Australie. Moi c'est... D'abord il fait un bon week-end dans l'ensemble où il a été très rapide, déjà le plus rapide de tous les pilotes, il a fait un bon week-end, et en plus, pendant la course, je sais pas si vous avez vu ce moment, moi j'ai pas vraiment regardé la course, mais ça m'a sauté aux yeux quand je l'ai regardé à ce moment-là, il a résisté à la Williams d'Hülkenberg.
C'est vrai.
Sur plusieurs virages, et honnêtement, alors, je l'ai mis 7e, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que moi je fais une liste de 10, voilà, et après je les mets dans l'ordre, et j'avais pas envie de le mettre derrière les 3 pilotes que j'ai mis derrière, parce que je trouvais qu'il avait plus de mérite. Voilà, derrière j'ai mis 3 pilotes qui pour moi n'avaient pas vraiment beaucoup de mérite ou un peu de mérite. Lui pour moi je trouve que se battre avec la Williams comme il s'est battu, même si ça a été que sur un petit tour, vraiment un tout petit tour, bah c'est la preuve quand même que cette Lotus elle avance bien, et c'est la preuve que peu à peu il est en train de prendre lui aussi la dimension peut-être pas d'un leader, mais au moins de quelqu'un qui va aider à progresser cette équipe. Et vu que c'est un pilote que j'adore, et je suis convaincu qu'il vaut bien mieux que ce qu'il a pu montrer chez McLaren, enfin que ce qu'on lui a laissé montrer chez McLaren, voilà.
C'est peut-être aussi la preuve que Williams n'avance pas plutôt que Lotus avance.
Bah surtout que c'est oui. Williams, ils ont eu beaucoup de problèmes apparemment Williams, puis Hülkenberg c'est encore. Alors j'ai pas vu le début de la course, je sais pas si c'est planté ou si il est pas bon sur les départs Hülkenberg.
Voilà pour Kova à la 9e place. Nous avons Fernando Alonso, que j'avais mis 9e, alors vous voyez, c'était vraiment pour faire du remplissage. Dino, tu l'as mis 10e,
ouais.
Enzo, tu l'as mis 8e aussi. Et alors les auditeurs l'ont même, enfin ils l'ont cité, mais au-delà de leur top 10. J'ai Sato qui l'a mis 9e, et je crois, oui c'est le seul. Mais en même temps, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment beaucoup vu Ferrari ce week-end.
Non, et puis enfin il a fait des erreurs, quoi. Il y a lui là, il y a un truc qui est assez, je sais pas si vous avez suivi un peu les déclarations et tout, mais il y a un truc qui est assez malsain. Enzo nous en parlera peut-être lui avec l'expérience qu'il a des années italiennes. Alonso, lui, vous savez sans doute qu'après la qualification, il a dit que c'était pas de sa faute à cause de son erreur, mais parce que la voiture était pas du tout à son aise, etc. Et il s'est fait légèrement rembarrer par Chris Dyer, qui est l'ingénieur, enfin le responsable activité en piste à Maranello, qui était ancien ingénieur de Schumacher et de Raikkonen et qui a été promu en interne, et qui a déclaré, grosso modo, 7 grands prix, une victoire, 4 erreurs, ça fait beaucoup pour un champion du monde.
Ouais.
Et en même temps, on apprend que Massa, après le grand prix et après les qualifications, a demandé à Ferrari de se réunir, de serrer les coudes, d'être solidaire, etc. Donc il a pris un rôle de rassembleur. Donc est-ce que va pas y avoir, même si c'est pas aussi sanglant que ce que ça peut être chez Red Bull, est-ce qu'il y aurait pas une petite italianisation comme à la grande époque où on va se rassembler autour d'un pilote qui rassemble? Je vais un peu comparer, je suis désolé la comparaison, un peu à Alesi, un mec qui va rassembler l'équipe, qui va être dans l'esprit et soutenir. Et je m'aventure, hein, et au contraire.
Ah oui, complètement.
Mettre un peu de côté un mec qui est performant et qui fait des erreurs, etc., mais qui est quand même un champion du monde, qui est la superstar de l'équipe. Voilà, c'est un peu la question que je me demande.
Quelle audace.
Non, mais c'est vrai que Alesi, souvent ce qu'on lui a dit, c'est que chez Ferrari c'est très famille, enfin on a vraiment l'impression d'un mec très famille chez Ferrari, que c'est peut-être son cœur qui lui a coûté cher, et peut-être que là le côté relationnel entre Massa et la Scuderia fait que
c'est vrai que j'avais vu ces déclarations à Alonso, ça m'a rappelé le Alonso il y a 3-4 ans. C'est toujours le même, c'est-à-dire qu'il est capable d'encenser son équipe quand tout va bien, et puis quand tout va mal, complètement retourner son opinion. Je sais pas, vous souvenez à l'époque de Renault pour son deuxième titre quand il était sur le point de partir chez McLaren, où quasiment il accusait Renault de lui mettre des bâtons dans les roues pour pas qu'il gagne le titre.
En même temps, à l'époque aussi, on avait Renault qui s'amusait à dessiner des moustaches sur les photos de Fernando Alonso au-dessus du stand de Fernando Alonso, au-dessus du stand de Fernando Alonso lors des derniers Grands Prix de la saison.
Oui. Mais c'est vrai que ça m'a rappelé un peu ça. Et... En ce moment, c'est chaud quand même hein, dans les équipes.
Ouais. Mais ça, le problème, c'est que chez Ferrari, c'est sourd parce qu'on n'en parle pas beaucoup, parce que c'est pas, ça n'explose pas en piste. Parce que bon, pour le moment, la Ferrari, en tout cas en Turquie, elle était à la rue.
Ils ont déjà prévenu. Au Canada, ça sera pas beaucoup mieux. Hein, parce que les grosses évolutions, ça sera après au retour du Canada.
Bah le problème, c'est qu'ils ont été mauvais. Ils ont été mauvais à Barcelone. Enfin, ils ont pas été terribles à Barcelone. Là, ils sont pas non plus terribles. Là où on a vu que les McLaren et les Red Bull étaient bonnes à Barcelone, et où depuis le début de la saison elles ont quand même des prestations assez bonnes, sauf McLaren à Monaco qui était un petit peu en retrait, Ferrari pour le moment s'est pas montré à son avantage sur beaucoup de grands prix à part Monaco, donc c'est ce qui est un peu inquiétant du côté de la Scuderia.
Quelque chose à rajouter sur Alonso et sur Ferrari?
Bah 800 grands prix, c'est tout.
Ouais,
c'est déjà ça.
On attendra la 900e.
Faut un putain de gâteau quand même. Hein.
Ils ont fait trop de gâteaux et elle était trop lourde.
Pour expliquer la contre-performance des Ferrari, on a vu par exemple que vendredi, Red Bull a essayé le F-Duct. Et ils l'ont retiré vendredi soir parce qu'en fait ils l'ont essayé sur la voiture de Vettel, et en fait Vettel se plaignait que quand il n'activait pas le système, parce que c'est un système aussi qui s'active avec la main, il y avait des petites turbulences qui faisaient que l'air ne s'échappait pas suffisamment, donc il y avait quand même un effet sur l'aileron arrière. Voilà, donc ça mettait un peu trop d'appui là où il en faudrait pas. Et
Ferrari a dit aussi que c'était pas si génial que ça.
Voilà, que leur système, là où le genou ça va parce que ça laisse de la place, et où là le système McLaren est conçu d'origine, le bricolage que font les équipes où c'est un système à main, bah le fait que comme dans le baquet c'est très serré, même quand la main elle est sur le volant, il y a quoi, il y a 2 cm entre la main et le trou, ça se trouve il y a la moitié de l'air qui passe et qui va quand même vers l'aileron arrière quand on bouge pas.
Vous avez vu, Mercedes ne sait même pas ce que ça leur fait gagner.
Oui.
Ça leur fait gagner du temps, mais ils savent pas combien.
D'ailleurs, Mercedes a abandonné un projet classique, et eux, ils cherchent maintenant à faire un système qui
est automatique.
Voilà, automatique. Mais non amovible.
Ah oui, c'est ça qui...
C'est là que ça devient rêve.
Ouais. Alors, en 8e position, le pilote Mercedes... Allemand,
Nico Rosberg.
Que, en effet, Enzo, tu as mis 9e. Que les auditeurs ont mis 6e. Moi, en toute honnêteté, je l'ai pas mis. Et Dino non plus.
En toute honnêteté, je l'ai pas mis.
C'est un peu, je l'ai pas vu, je l'ai pas mis. Mais bon, j'aurais pu le mettre quand même parce que Rosberg, on le voit pas souvent non plus.
Ouais, mais on l'a tellement mis depuis le début de la saison, en dépit du fait qu'on ne le voyait pas, là vraiment, oui. On l'a pas vu du tout, quoi. Et puis, il a été dominé par Michael et voilà, quoi.
Oui.
Même quand on ne voit pas, l'important c'est de faire la différence avec ton coéquipier. Schumacher, on l'a pas vu, il a fait la différence par rapport à Rosberg sur cette course-là. Donc c'est plutôt Schumacher qu'on va mettre dans les points, plutôt que Rosberg.
Enzo, quelque chose à dire sur Rosberg, toi qui l'as mis?
Je sais pas si tu l'as mis.
Non, on l'a pas vu.
Toi aussi, c'était pour combler ton classement.
Ouais.
Parce qu'il a pas pensé à Kovalainen, c'est pour ça.
J'ai commencé mon classement, je me suis dit merde, je suis en train de mettre le même résultat que celui du Grand Prix. Et bon, j'en dis un peu trop à l'avance, mais
Bon alors, Hamilton, Button, Weber. J'aime bien. Moi, j'aime bien ces débuts de top 10 où on a l'impression de se faire chier en parlant des pilotes.
Voilà.
Surtout là, en Turquie où il y a quand même 4 pilotes qui ont brillé. Enfin, brillé d'une manière ou d'une autre.
On passe au 7ème qui, d'ailleurs, en nombre de points, il y a un up, hein. il y a un gros creux.
J'imagine.
Je l'ai mis 7ème. Dino, tu l'as mis 8ème. Enzo, tu l'as mis 6ème. Les auditeurs l'ont mis 8ème. C'est le pilote japonais qui offre ses premiers points à Sauber cette année. C'est Kobayashi.
Ouais. Bah bravo.
Donc déjà, Kobayashi, on l'avait dit, qualifié en Q3, ce qui était déjà vraiment bien. Ouais. Et il a tenu. Il s'était pas déjà qualifié en Q3 d'ailleurs cette année, une fois.
Si. Oui. En Espagne.
En Espagne. Voilà. Bah tiens, ce que tu disais, voilà, pareil. En Espagne Q3, là encore Q3. Sauf que là, cette fois-ci, il a tenu.
Bah disons qu'il était derrière Kubica et pas devant.
Oui.
Ça a arrangé ses affaires.
On passe à la 6ème place?
Non. Oui. J'ai envie de me rebeller, on passe pas à la 6ème place.
Non mais oui.
Kobayashi, on peut quand même dire que depuis le début de saison, même s'il se met pas vraiment en évidence parce qu'il en a pas l'occasion avec une voiture qui est pas franchement très bonne, il fait quand même des bonnes performances, quoi. Il est assez rapide, voilà, c'est juste qu'il n'est pas visible. Mais quand il faut scorer et quand la voiture est là, bah il est au rendez-vous.
Bah c'est vrai que la Sauber elle vaut pas une Toyota, et quand on sait ce que vaut une Toyota...
Ouais, voilà.
Oui. C'est bien résumé, ça.
Voilà.
C'est une belle phrase comme Shinji sait nous en faire.
Tu pourrais animer des émissions de radio.
Ouais.
Carrément.
On va qu'on donne ta chance un jour. Dis, voilà, allez, Shinji, aujourd'hui tu te présentes.
En sixième place.
Et voilà, ça y est, il s'y croit, il fait les transitions et tout. Ah, vas-y, je commence à dire en sixième place et tout. On oublie qui c'est les patrons là, ouais.
En sixième place.
Non, on va commencer par la 5ème aujourd'hui. Après, on fera la 6ème. Après,
premier. Grand mort. Vaut mieux pas.
En sixième place.
En sixième place, c'est le pilote russe Vitaly Petrov qui a fait le meilleur tour de la course.
Oui.
Et oui.
Après être rentré dans les stands, il a rechaussé les pneus tendres. Et allez, hop, un petit meilleur tour. Je l'ai mis 6ème, Dimono l'a mis 6ème, Enzo l'a mis 5. Oui, d'abord, tu m'énerves.
Dimono. C'est le frère de Kimono. Et le cousin de Mikado. Voilà. C'est Dimono. Bienvenue sur ElzoF1.com avec Enzo et Dimono. Alors, Dimono, as-tu mis ton kimono aujourd'hui? Oh, bah oui, Enzo, j'ai mis mon kimono parce que je m'appelle Dimono.
On se calme.
Et Dimono, moins 1, ça fait 9 monos. C'est la fatigue qui parle, désolé.
On fait ça.
Donc, Petrov, qui accessoirement, Enzo et les auditeurs l'ont mis 5ème.
Tu l'as dit?
Oui.
Non, mais c'est plus où on est là. Il gère plus d'émission.
Non, mais moi je sais où on est né, hein.
On l'a eu, Enzo, on l'a eu, ça y est, il est foutu. Il va démissionner, enfin.
Non, vous avez rien à dire sur Petrov?
Si, c'est dommage. Mais faut pas se battre contre Alonso, c'est tout. Ça t'apprendra, non?
Bah, il a montré qu'il était de peut-être pas des très grands pilotes et des potentiels champions, mais qu'il était honnêtement, si ça se confirme sur toute la saison, il va être là pendant plusieurs années en Formule 1, parce que là apparemment il avait un nouveau moteur alors que Kubica avait un vieux moteur. Mmh. Donc on sait que les vieux moteurs ils perdent un peu de puissance, donc Petrov a fait jeu égal avec Kubica, mais c'est apparemment égalisé en fait par le fait qu'il ait un nouveau moteur. Mais il a fait jeu égal avec Kubica. Il fait aucune erreur comparé à Hülkenberg, qui est l'autre rookie et contre qui il s'est battu l'an dernier. Voilà, il fait une belle résistance à Alonso après avoir fait une belle résistance à Hamilton. Il signe le meilleur tour avec orgueil alors qu'il vient quand même de perdre les points. Voilà, moi pour moi c'est Petrov, c'est un nom qu'on verra sur nos écrans de télévision pendant quelques années encore.
Enzo?
Oui, il sera pas aussi si formel que Dino, quoi. Il fait une belle course, il est une Renault, hein, c'est quand même pas la Williams non plus de Hülkenberg en ce moment, quoi. Donc,
ouais, mais il fait pas d'erreur.
Oui, ça je suis d'accord. Après, il bénéficie sans doute aussi de la mise au point de Kubica, qui est un bon metteur au point. Bon, tu vas me dire Barrichello aussi, sans doute, mais bon, voilà. Je pense qu'il a une bonne voiture. Après, est-ce qu'on le verra dans les années à venir? Je lui souhaite, c'est tout. Je serais pas aussi des pilotes qui font des bonnes premières saisons. Regarde un Verstappen, sa première saison chez Benetton, elle a été plutôt brillante.
Oui, mais Verstappen, il s'est installé pendant plusieurs années en Formule 1. Ouais. Même si c'était en fond de peloton, c'est ça que je veux dire, c'est que Petrov ne va pas être un grand pilote, ou je pense pas. Mais en tout cas, il fait partie de ces pilotes que l'on voit arriver, comme on a vu arriver à un moment donné Trulli, sans qu'on se dise, lui, il va tout déchirer en F1, mais on se dit, voilà, lui, on va le voir pendant quelques années. Pas forcément toujours devant, mais on va le voir.
Je suis d'accord. Mais bon, on aurait le classement du SAV à jour, ce serait mieux. Je sais, ça n'a rien à voir.
À la cinquième place.
Ah, on reprend dans l'ordre, donc.
On reprend dans l'ordre.
C'est super déçu, en fait. Vas-y,
pourquoi?
Continue. Bah, parce que moi, j'ai mis quelqu'un, voilà, et je pensais que personne allait le mettre si haut, mais bon, voilà. Et en fait, je m'aperçois que c'est assez banal ce que j'ai fait.
En cinquième place, et attention, c'est un gros morceau du SAV.
Ah merde.
Ah, c'est peut-être lui. Hein.
Je l'ai mis cinquième. Dino, tu l'as carrément mis troisième.
Bah, c'est celui-là alors.
Enzo, tu l'as mis quatrième.
Après, il l'a dit mieux que moi, Dino.
Et il s'est littéralement fait démonter la gueule par les auditeurs, se classant seulement 12e.
Oh la vache.
12e.
Dépassé par Senna, vous vous rendez compte?
Mais qui est donc?
Il est tellement...
Il a changé de châssis, il a donné un nouveau nom.
Ouais. D'ailleurs, il est quand même chaud quand même, parce que déjà le dernier c'était la pulpeuse, et là c'est devenu, alors j'ai traduit par la libidineuse, ça veut quand même dire porter sur la chose.
C'est donc Sébastien Vettel. Alors,
je suis déçu.
Tu es déçu?
Il est trop bas. Moi, il mérite une troisième place.
Ça se tient, ça se tient.
Non, mais par contre, c'est con parce que je me disais, ah oh merde, je vais être le seul à défendre Vettel, et j'étais content directement.
Ah, pareil.
Et en fait, non. Ça se trouve, on va tous les trois me défendre et on n'aura personne pour nous dire, mais non, vous avez tort, vous êtes des cons, etc.
Moi, je le défends pas vraiment. Je l'ai mis cinquième mais je trouve que les autres sont devant. Et si ça avait pas été de sa faute, je l'aurais mis plus haut.
Parce que c'est de sa faute.
Écoute, contrairement à ce que tu as écrit sur les commentaires du site, hein, que tu as dit que c'était un peu la faute de l'équipe, j'ai envie de dire que c'est pas l'équipe qui lui a dit de tourner son volant à droite.
Il a pas tourné son volant.
Si.
Non. Si. Non. Sérieusement, regardez, il y a une différence entre donner un coup de volant et légèrement tourner son volant. Voilà.
Il a donné un coup de volant comme il a fait sur Hamilton dans le.
Non, c'était pas aussi sec, c'était pas un coup de volant.
Je dis pas qu'il a fait un.
Il s'est resserré. Généralement, dans ce genre de situation, surtout entre coéquipiers, quand t'as un pilote qui est devant et un autre qui est à côté, roue contre roue, généralement, il y a une sorte, je vais pas dire que c'est un gentleman agreement, mais il y a une sorte de certaine conscience un petit peu intellectuelle qui fait que le pilote qui se trouve à l'intérieur a tendance à se dire, si je décale, je me décale, parce que sinon, je vais me bouffer sa bagnole. Donc, je vais perdre mes suspensions. Donc, je vais finir comme un gros con sur le bord de la piste. Là, donc, quand lui met un petit coup de volant, c'est pour, entre guillemets, donner le signal à Weber, lui dire, écoute, voilà, je suis devant, laisse-moi passer. Et c'est Weber qui reste pile poil sur sa ligne et qui bouge pas. Oui, il donne un petit coup de volant, il tourne légèrement parce qu'il arrive au point de freinage, et que si il donne pas le coup de volant, le freinage risque d'être catastrophique pour les deux Red Bull, et derrière, il y a Hamilton qui a 2 secondes, même pas. Donc, ça risque de plutôt tourner à l'avantage d'Hamilton. Donc, il fait une manœuvre autoritaire, voilà, où il dit à Weber, voilà, attention, je me décale, suis mon mouvement, voilà, tu seras deuxième, tu peux te récupérer plus tard.
Moi, je pense qu'il est responsable de l'accrochage. Par contre, je l'ai mis si haut parce qu'au moins, il y est allé.
Ah oui,
et
ça...
il s'est pas contenté d'être deuxième et à dire, voilà, c'est mon coéquipier, il faut surtout pas que je l'attaque, etc.
Ah non, on peut pas lui reprocher d'avoir osé doubler, ça...
Alors en plus,
certainement
pas. Je pense qu'il est en tort sur l'accrochage. Il n'a pas bougé de sa ligne tant qu'il est sûr que Weber n'est plus là.
Oui, mais ils sont entre coéquipiers, enfin je sais pas, mais... Alors surtout que à ce moment-là, Red Bull nous a expliqué, et le fait que derrière on ait aussi eu des messages un peu similaires du côté de McLaren peut laisser à penser que c'est vrai, on nous a signalé en fait que Weber et Vettel sont partis avec les mêmes quantités d'essence. Mais il se trouve que les mecs sur le muret se sont rendus compte que les deux pilotes avaient un petit peu trop surconsommé. Ce qui est, il est vrai, étonnant pour le moteur Renault, mais on avait déjà évoqué il y a quelques au Grand Prix de Bahreïn le fait que peut-être que ils avaient un peu surestimé la consommation, sous-estimé la consommation du Renault, et qu'ils avaient peut-être vu un petit peu trop juste leur réservoir et leur charge en essence.
Et puis ne pas oublier ce qu'on a dit au début de l'émission, avec les petits écarts, c'est qu'on a eu un rythme de course incroyable pendant. Voilà, très élevé pendant la moitié, voire les trois quarts de la course.
Donc, apparemment, on a demandé à Vettel et Weber de se mettre en mode économie, entre guillemets. Légère économie, puisqu'il faut quand même derrière soutenir le rythme d'Hamilton qui était en chasse. Et c'est vrai que quelques tours avant, on se rend compte quand même qu'Hamilton se rapproche, et il y a notamment une passe d'armes entre Hamilton et Vettel qui se justifie par le fait que Hamilton lui n'est pas en mode économie, là où Vettel est sans doute en mode économie. Sauf que le problème, c'est que en nombre de tours, Weber avait un tour de plus à économiser que Vettel. Donc Vettel, lui, s'est dit, c'est mon opportunité, je dois y aller, c'est tout de suite ou c'est jamais. Donc il s'est rapproché, il l'a passé à l'extérieur. À ce moment-là, les deux le savent très bien. Vettel sait que lui, il est à pleine vitesse, et Weber sait que lui, il est en mode économie, et qu'il peut donc pas résister à Vettel. Et que, à la limite, le plus sage, si vraiment il est plus rapide, c'est de lui passer après. Moi, mon point de vue, c'est que, certes, Vettel le tasse pour lui dire, voilà, laisse-moi passer, voilà. Mais mon point de vue, c'est aussi que, il y a celui qui tasse et il y a celui qui garde sa ligne. Si Weber avait eu un tout petit peu d'intelligence de course, il aurait compris que finalement, s'il reste sur sa ligne, c'est l'accrochage qui va se passer. Donc, même si Vettel fait ça, c'est le même réflexe qu'a eu Lewis Hamilton dans les stands à Shanghai, bah, lui aussi se décale. À un moment donné, Lewis Hamilton, il a dû céder. Et là, en arrivant au freinage, à un gros freinage en plus, après une ligne droite où on est en pleine charge, il doit freiner. S'il change pas sa ligne, c'est parce que il se dit, je dois pas le laisser passer. Donc, il est dans la même condition que Vettel. Il se dit, voilà, c'est là que ça joue ou jamais. Donc, pour moi, les deux ont des torts. 50-50.
Par rapport à d'habitude, Weber, il a été très rigolo.
De manière, voilà, on sait que Weber, il est super dur à dépasser.
Voilà.
Franchement, le fait qu'il reste sur sa ligne, c'est très sage de la part de Weber, hein.
Oui.
Oui, non, mais voilà.
Parce qu'il y a pas beaucoup de place entre l'herbe et Weber, mais il y avait la place quand même pour passer pour Vettel. Hein. Si ça avait pas été son coéquipier,
je sais pas si vous avez noté, là, il y a eu une déclaration de Weber juste après la course, qui a dit, c'est quand même assez drôle ce qu'il a dit, je sais que sur les vidéos, on a l'impression, au tout début, juste avant que, juste au moment où Vettel se met à ses côtés, la voiture, alors lui tourne pas le volant, c'est vrai qu'il bouge légèrement le volant, mais comme tout pilote bouge le volant quand il est à bord avec les vibrations, mais la voiture, elle tourne de quelques degrés seulement. Et elle se resserre un peu sur la trajectoire de Vettel. Et lui a dit, je sais que sur les vidéos, on a l'impression que je tourne en direction de Vettel, mais en fait, non, je tourne pas. Même si, c'est vrai que ça peut laisser penser que je tourne. Donc déjà, le mec, il se tire un peu une balle dans le pied. Oui. Et faut quand même aussi remarquer le fait que Weber, derrière, n'a strictement rien dit. Enfin, il était décomposé sur le podium. Il avait pas l'air très bavard.
Ah, mais de toute façon, le podium était terrible.
Il était triste.
Ah oui.
Entre Hamilton, qui faisait pas la joie parce que bon, ben, c'est vrai que ça lui est un peu tombé dans les bras. Entre Button, qui faisait la gueule parce que sans doute il aurait bien aimé passer Hamilton. Et Weber, qui rêvait de la victoire. Oh là là, le podium!
Mais moi, je me demande si aussi Weber s'est pas, peut-être aussi un peu remis en cause en disant, même sans absoudre Vettel de, parce qu'on m'a déjà dit que je serais pas objectif parce que je suis fan de Vettel, sans dire que Vettel est innocent, mais juste peut-être que lui il s'est mis dans sa tête, voilà, j'ai ma part de responsabilité. Ce que n'a pas fait Vettel après, puisque Vettel lui il a continué de dire c'est la faute de Weber, etc. Alors qu'il voilà, ils sont tous les deux responsables de cet incident, quoi. Y a Weber qui insiste en restant sur sa ligne et il y a Vettel qui se précipite un petit peu trop pour refermer la trajectoire. Les deux sont fautifs, incident de course, voilà. Et d'ailleurs, la preuve, il n'y a pas eu d'investigation après la course sur l'incident, donc c'est qu'il n'y avait rien à dire. Et c'est aussi parce que c'était
Je me demande si ça avait été un accrochage entre deux écuries différentes, s'il n'y aurait pas eu d'investigation.
Peut-être, oui.
Oui, puis je me demande si le commissaire n'avait pas été, enfin le commissaire pilote n'avait pas été un pilote d'origine britannique, et si la situation n'avait pas tourné en faveur de pilotes britanniques, je me demande s'il n'y aurait pas eu intervention. Voilà, je m'avance, le pilote n'avait pas été un pilote d'origine britannique, et si la situation n'avait pas tourné en faveur de pilotes britanniques, je me demande s'il n'y aurait pas eu intervention. Voilà, je m'avance peut-être un peu trop. D'ailleurs, je trouve qu'il y a quand même, depuis le début de l'année, il y a quand même beaucoup de pilotes britanniques. Hill, Herbert, ça fait deux fois. Il y a eu qui d'autre? Brundle, je sais plus.
Warwick.
Il y a eu Warwick. Donc, il y a quand même beaucoup de pilotes anglophones ou.
Et Herbert, c'est la deuxième fois. Hein.
Voilà.
Ils ont peut-être que ça à foutre au Royaume-Uni.
Bah ouais, mais enfin, il pourrait y avoir des Brésiliens, enfin je sais pas, des Fittipaldi, ou même des pilotes un peu plus récents, quoi, des Panis.
Les pilotes français, bah oui, mais quand on voit ce qu'ils font, bref, à part Prost.
Mais non, Herbert, il a pas non plus fait grand chose d'autre, quoi, par rapport à Panis.
Il a gagné 3 Grands Prix.
Oui, bah Panis, il en a gagné, on peut se rappeler de Panis.
Oh, plus. Bon, Warwick, il n'en a jamais gagné.
Ah bah voilà.
Quelque chose à rajouter sur Vettel, sur le reste de sa course, peut-être, non?
Le rêve de sa course?
Le reste.
Ah, pardon.
Enfin, sa demi-course.
Un peu plus, quand même.
Ouais.
Oui, parce que c'est 40e tour sur 58.
Ah oui, c'est 3/4 de course.
Alors moi, en plus, moi, Vettel, je me suis dit, je vais le mettre devant Weber, parce que, au moins, ça rend le championnat intéressant. D'abord parce que ça laisse les McLaren Boys se rapprocher. Et puis Alonso qui reste pas trop loin derrière en embuscade. Et en plus, bon bah ça met un autre petit coup dans la carapace de Red Bull qui semblait jusque-là intouchable.
Oui.
D'ailleurs, tu parles de Red Bull intouchable. Juste un petit mot pour parler de la déclaration avant le Grand Prix de Button, qui se plaignait que la domination des Red Bull qui était vraiment intouchable. Il oublie juste que l'an dernier à la même époque, ce que devaient ressortir les autres, quoi. Comme quoi.
Et c'était pire.
Mais non, mais moi j'ai la justification parce que l'an dernier il était avec sa copine Jessica Michibata et entre temps il l'a quitté parce que en fait il a dit qu'il voulait se concentrer sur la F1 parce que l'an dernier il n'était pas concentré parce qu'il était avec Jessica. Donc il n'avait pas vraiment conscience l'an dernier qu'il avait dominé la saison. Là, cette année il se concentre.
À la 4e place, nous avons l'autre pilote Red Bull, Mark Webber, qui n'est donc
que
quatrième.
Oh non.
Eh oui. Là, il y en a qui commencent à se dire, oh mon Dieu. Les auditeurs l'ont mis quatrième. Je l'ai mis troisième. Dino, tu l'as mis quatrième. Et Enzo l'a mis troisième. Voilà. Donc Weber, qui était bien parti quand même pour gagner la course.
Oui.
Même si bon.
Pour faire la passe de 3.
Voilà. On sait ce qui s'est passé. Bon, sur le reste de la course. À moins que vous voulez revenir sur le côté weberien de l'accident. Mais voilà, sur le reste de sa course surtout.
Une course solide, rien à dire. Moins dominateur quand même que les deux précédentes.
Oui,
même,
oui.
Même je dirais par rapport à son coéquipier, hein, quand on dit c'est une troisième victoire qui lui tendait les bras, je suis pas d'accord. Hein, avec le fait de la consommation, théoriquement, si Vettel réussit son dépassement, la victoire elle tend les bras à Vettel et pas à Weber. Hein, et même sur l'ensemble du week-end, c'est Vettel qui est un peu plus fort en performance pure que Weber, qui a été assez discret lors des essais, qui a été une nouvelle fois très opportuniste lors de la qualif. Et voilà, Weber, sur une Red Bull partant en pole, théoriquement, il n'y a pas de problème en course.
Rien à rajouter sur Weber, vu qu'on a déjà pas mal parlé de Red Bull.
Rien d'autre.
On va passer à la troisième place.
Là, j'hallucine. Je vais halluciner, je crois.
Cela, c'est pas moi.
Mais faut arrêter, quoi.
J'ai dit, qu'est-ce que tu nous as fait?
Faut arrêter.
Bah, écoute, moi, je l'ai mis 4. Toi, tu l'as mis 5, Enzo l'a mis 7, et les auditeurs l'ont mis 3, en effet.
Mais c'est les auditeurs à eux seuls qui en font un troisième.
Bah, ils le tirent, peut-être que, voilà, oui, alors, ça s'est joué à un point, en fait, avec Weber. Donc, c'est les auditeurs qui le tirent.
Faut arrêter.
Tu vois, Enzo, t'auras dû mettre 8ème.
Voilà, sans les auditeurs, il aurait été une ou deux places en dessous.
Parce que j'allais les personnes, pas le mettre derrière Alonso.
Très serré. Et donc, pour la première fois, il est sur le podium du SAV. C'est Choumi.
Mon Dieu.
Le meilleur du reste, le meilleur des autres.
Surtout,
faut arrêter.
C'est le fait qu'il soit devant les deux Red Bull, quoi.
Il est pas. Non.
J'étais quasiment certain qu'il serait devant Vettel et derrière Weber.
C'est ce que j'ai mis, moi, voilà.
Mais là,
je propose qu'on supprime le droit de vote aux auditeurs.
Si tu veux, les auditeurs l'ont mis devant Weber, et ils ont complètement ignoré Vettel.
Oui, c'est vrai.
Voilà, je pense aussi que c'est ça. Parce que pareil, Enzo, tu t'as mis largement derrière.
Oui, c'est ça, surtout, c'est qu'Enzo l'a mis 7ème.
Voilà, Dino, tu l'as mis derrière Vettel et Weber. Moi, je l'ai mis derrière Weber, mais devant Vettel. Donc, ça me paraissait logique. Et donc, voilà, il se retrouve 3ème.
Bah, on va pas le justifier, hein, on n'est pas d'accord.
Bah, moi, je sais pas, moi, j'ai juste écrit course presque anonyme, mais solide. Ouais,
qu'il a qualifié lui-même de ennuyeuse.
Oui, pas tout comme Massa.
Voilà. Il a plus revu, une fois qu'il était parti, il a plus revu le diffuseur de Button. Et on l'a vu, hein, il était en tête du petit train.
Et on a longtemps pensé que c'était lui qui bouchonnait le petit train, et en fait non, c'était Rosberg qui bouchonnait.
Ouais, aussi.
Mais Rosberg, il te dit ah oui, j'allais plus vite que Choumi, mais bon.
Oui. T'allais plus vite, mais t'étais derrière. Bien.
Voilà.
Et tu perdais du temps.
Voilà.
Ouais, surtout.
Mais moi, sur ma préparation, parce que maintenant je fais les choses sérieusement, je prépare mes top 10, parce que je me dis, des fois, ça se trouve, ça va porter à polémique, faut que je prépare le terrain.
Ouais.
Et j'ai écrit pour Schumacher, j'ai mis des guillemets, j'ai mis domine, entre guillemets, son coéquipier sur un circuit exigeant. Voilà. Tout ce que j'ai trouvé.
Ouais, voilà. Oui, c'est ça.
Parce que la domination est légère, bon voilà, il confirme, mais il s'est pas montré, voilà, enfin, de quoi être troisième, quand même.
Et puis alors, quel écart, avec les McLaren et les Red Bull, quoi. Je veux dire, c'est terrible pour Mercedes. Je veux dire, à chaque fois qu'ils se disent, on est sur le point de gagner un tout petit peu pour les rattraper. Et...
Bah là, leur satisfaction, c'est d'être devant Ferrari et d'être devant Renault. Ouais. Enfin, surtout d'être devant Ferrari, d'ailleurs.
Ça va peut-être pas non plus durer, hein. C'était mauvais pour Ferrari, mais ça va pas durer.
La Mercedes en performance, enfin, encore une fois, comme à Barcelone, quoi. À Barcelone, Schumacher fait 4ème, je crois, mais il finit à 1 minute. Là, il finit à 40, 45 secondes. C'est beaucoup trop loin, quoi. Pourtant, alors que devant, ils ont perdu du temps.
Mais Ross Brawn dit qu'ils veulent encore gagner une course cette année.
Alonso a bien gagné sur une Renault qui était à chier.
Ouais.
J'ai cru qu'elle allait dire sur une Ferrari.
Oui, j'étais tenté de le dire aussi. Je sens qu'on va pas avoir beaucoup des victoires Ferrari cette année.
Bah, au moins autant que l'an dernier.
Oui, voilà, ça, c'est, voilà. Déjà, c'est acquis.
Pour moi, c'est l'avantage quand on l'a fait dès la première course. On l'attend plus toute l'année.
Passe à la deuxième place.
Mais globalement, ils ont dit quoi, les auditeurs, sur Schumacher? Parce que.
Sur Schumacher?
Comment ils justifient le fait qu'il soit placé si haut? Ils ont trouvé qu'il avait bien piloté, que. Je sais pas,
on va revenir.
Bon, c'est vrai qu'il y a aussi, comme tu disais, il y a aussi le fait qu'ils ont totalement squeezé.
Voilà, qui sans doute leur émis.
Vettel, mais. Non, mais
c'est ça, surtout.
Bilot, Schumacher, quatrième devant Nico du début à la fin.
Kubica aussi, il est devant Petrov du début à la fin, quoi. Il passe sur le podium. Et Senna aussi, hein.
Mais Senna, il a abandonné.
Damien Schumacher, deuxième, très bon sur les circuits rapides, ça revient, ça revient.
Je savais qu'il allait dire ça.
Écoutez pas Damien, il y connaît rien.
Il y a qu'à voir comment est-ce qu'on part dans le Fantasy F1. Alors on ne parlera pas de l'autre jeu.
Damien, si tu nous écoutes.
Iceman Air, l'ami quatrième, le meilleur des autres, au fil des courses, il retrouve de plus en plus son niveau d'antan. Et fait maintenant au moins jeu égal avec Rosberg. Sérieux, il y a 3-4 ans, il aurait fait une course comme ça, vous ne l'auriez jamais mis aussi haut.
Ouais. Et il y a Globen en plus. Alors Globen, il met Senna Kobayashi en premier.
Oui.
Et deuxième. Et il met Schumacher. Voilà, Schumacher, il est encore meilleur que Button, Hamilton, Weber.
Ensuite, devant Massa.
Massa, Petrov, Kubica, Rosberg, Sutil, Button seulement, Vettel et... Exit Weber.
Exit Hamilton.
Exit Hamilton.
Non, mais faudrait supprimer ce genre de vote. Les supporters de Kubica, faut les supprimer.
Non, mais ça, on y travaille, ça.
Oui. En deuxième position, c'est une McLaren, bien évidemment. C'est celle de Button, que j'ai mis deuxième. Kenzo a mis deuxième, que les auditeurs ont mis deuxième. Et que toi, Dino, tu as par contre mis premier.
Ah bah oui.
Bah non.
Ah bah oui, à fond. Ah oui. Oui, à fond. Il attaque son coéquipier. On hurlait contre Button parce qu'il n'avait pas attaqué Schumacher alors qu'il aurait dû l'attaquer parce que c'est pas un mec de son équipe. Là où, juste après l'incident entre Vettel, entre deux coéquipiers, il aurait dû plutôt y aller à pas de loup, quoi, en disant méfiance, méfiance. Lui, il y va à fond, quoi. Il fait une petite lutte avec Hamilton. Hamilton le jauge bien, je pense qu'avec un autre, Hamilton serait sans doute aussi viré au carnage ou à la dispute. Mais là, il sait que c'est Button, bon, ça reste entre gentlemen. C'est aussi ce que je disais sur le blog. Le genre de lutte et le genre d'incident dont on a vu l'exemple avec Vettel et Weber, c'est aussi parce que c'est deux caractères. Voilà. Et puis à la fin, quand il a vu qu'il pouvait pas le passer, que Hamilton s'est défendu, il a joué le team player, il a fait la deuxième place. Voilà.
C'est drôle d'ailleurs parce qu'on a eu la com radio disant à Button qu'il fallait ralentir, et qu'il manquait d'essence sur le coup. Enfin, je sais pas vous, mais moi j'ai pensé comme les commentateurs, c'est que c'était une belle connerie. Ah oui, on n'y a pas cru. Et en fait, c'est finalement après course.
Apparemment, ils ont répété plusieurs fois le message à Hamilton.
Ouais.
Et puis, bon, quand on a eu aussi l'explication donnée par Red Bull à l'instant.
Par Red Bull, oui.
Pilote, on se dit apparemment, en tout cas chez les deux équipes de pointe, on avait un problème de consommation.
Ça paraît logique vu la course qu'on a eue. Quelque chose à rajouter sur Button?
Il a quand même redoublé Schumi au départ aussi.
Oui. Bien. Oui.
On n'était pas habitué.
Premier tour très intense aussi, on a oublié de le dire, mais bien costaud. C'était bien.
Non, puis même derrière, il les a pas lâchés, il a attendu. Enfin, quand on a annoncé la pluie, on lui a dit panique pas. En plus, ouais. Je crois que le mec, il l'appelle Baby, donc panique pas Baby. c'est notre moment. Il va pleuvoir. Économise-toi, etc. Pour moi, il a montré dans cette seule course de Turquie, il a montré tout ce qu'on peut dire sur Button. Le type player, le mec qui sait économiser, qui sait être opportuniste, qui sait être offensif quand il a besoin d'être offensif, mais propre. Voilà, le mec qui fait pas d'erreur, qui panique pas, qui a la tête froide. Enfin, voilà, moi j'ai adoré le Button que j'ai vu ce week-end.
Il nous prouve de plus en plus que non, il ne sera pas largué par Hamilton.
Ah, c'est clair ça.
Battu peut-être, mais pas largué.
Puis même symboliquement, quoi, il y avait aussi une dans cette bataille, plus que la bataille pour la victoire, il y avait aussi une bataille pour l'hégémonie au sein de l'équipe.
Exact. Oui.
Parce que au final, celui qui gagne la bataille remporte une course. Et si ça fait 2-1 ou si ça fait 3-0 au sein de l'équipe, c'est plus du tout la même position. Là, Hamilton se devait de rapidement réagir. Et Button se devait de rapidement enterrer Hamilton pour favoriser ses chances à lui. Même si je pense qu'on n'aurait jamais dit à Hamilton, bon maintenant tu roules pour Button.
Ouais. On passe au premier.
On est obligé, hein.
Oui.
Et justement, le premier, bah forcément, c'est Hamilton.
Bon.
Dino, bon, on l'a mis deuxième, sinon les trois autres notes l'ont mis premier. Donc c'est bizarre parce que finalement Hamilton, on lui sert cette victoire sur un plateau d'argent, et pourtant il faut pas l'oublier, il a été super bon pendant la course.
Ah oui, mais complètement.
Je pense notamment à cet arrêt, on en a parlé, qui est raté par McLaren. Vous imaginez, s'il le réussit, il était deuxième au moment de son arrêt. Imaginez qu'il passe premier, la course est complètement différente.
Ah oui.
Et Weber l'a dit, sur la première partie de course, il avait beau être devant, c'était Hamilton qui était meilleur.
Ouais.
D'où tout ce qu'on a dit sur le rythme, sur la consommation élevée.
Alors maintenant, je partagerai pas l'enthousiasme des sites d'actu, etc., qui disent, voilà, la McLaren a récupéré son retard. Ça
non.
me fait un peu penser à ce qu'on a dit... Comparaison footballistique, hein, ça me fait un peu penser à ce qu'on a dit de la prestation de l'équipe de France au lendemain de Costa Rica. On a dit oui, cette équipe a trouvé une âme, etc. Ils ont trouvé une envie de jouer. Et on a commencé à douter de ce qu'on avait dit 5 jours avant quand on a vu le France-Tunisie en se disant bon, bah alors on s'est peut-être un petit peu emballé. J'ai peur quand même qu'on s'emballe aussi un petit peu.
Enzo, quelque chose à rajouter sur Hamilton ?
Non, moi j'ai bien aimé sa course. Je suis pas un fan d'Hamilton pourtant, mais. Bon, il suit bien le rythme tout le temps, il lâche pas, et malgré son pépin au stand, effectivement, il tient bon, et puis voilà, ça paye.
Et c'est vrai, ce podium assez étrange, où, pour un vainqueur, c'était bien triste.
Il tire un peu la gueule.
Ouais. Mais en plus, c'est un peu la même chose que Button, ce que je disais sur Button, où on a vu un petit peu toute la palette que peut offrir Button. Là, on a vu à la fois un pilote attaquant en course, parce qu'il a quand même, il s'est pas économisé, quoi. Mais en même temps, aussi un pilote qui a su être opportuniste et qui a su attendre sa chance.
Oui.
Donc, voilà.
Ah, mais être un grand champion, c'est aussi avoir de la chance. Hein. Cette course restera dans l'histoire, quand tu veux expliquer comment tu peux offrir sur un plateau une victoire, mais alors c'est le modèle même, c'est la leçon même qu'on a eue ce week-end, quoi.
Mais alors je conseillerais à nos auditeurs, je sais pas s'ils le suivent, c'est pas un vrai site d'actu sur la F1 parce que c'est Eurosport, mais il y a un analyste dont j'ai même pas retenu le nom sur Eurosport qui tient un blog et qui a fait un article en disant ça y est, Red Bull est rentré parmi les grandes équipes. Elle a offert à la F1 un de ses clashs et une de ses scènes de F1 dont on reparlera dans plusieurs années, et elle est rentrée dans l'histoire de la F1, voilà, depuis un play dans la légende.
Et on risque peut-être même d'en reparler, non pas dans quelques années, mais dans quelques mois.
Oui.
Parce que perdre peut-être 25 points cette année, c'est pas une bonne idée.
Mais franchement, je vous le conseille, hein, ceux qui passent par Eurosport, l'article est très bien et analyse bien l'incident, voilà.
Donc, on va revenir sur les classements, donc après la Turquie. Et Vettel est toujours premier, il l'était déjà, mais il l'est toujours, comme il a pu quand même garder quelques points avec 98 points. Alonso est deuxième avec 95.
Pff, l'arnaque.
Weber est à 82. Par contre, on voit une remontée des McLaren qui sont toutes les deux à 76 points. Donc, pas très loin. Chez les constructeurs, alors Red Bull est toujours devant avec 180 points. Devant McLaren qui prend la deuxième place avec 152 points. Normal, ils ont fait le carton plein. Et Ferrari 124. À noter que Mercedes à 101 points est repassé devant Renault. Dans l'autre classement, Mark Weber a réussi avec sa troisième place à garder la tête du championnat, 93 points. Button pointe en deuxième place, 88. Et Lewis Hamilton, 84. Et à noter que notre fameux top 8, hein, alors l'écart a légèrement augmenté.
Les top 8.
L'écart entre les 8 premiers pilotes.
Les 8 premiers pilotes et encore de 27 points. Donc On a dépassé les 25, mais on est encore voilà, un petit peu au-dessus. Mais,
une victoire.
Voilà, on est encore plus ou moins à une victoire. Chez les constructeurs, McLaren est devant, 172 points. Pour un point, ils sont devant Red Bull, donc 171. Et Ferrari, bah, un peu comme classement des SAV, il est un tout petit peu décroché à 146 points. Et par contre, là aussi, Mercedes a pris de l'avance, repris de l'avance devant Renault. Avec 100 points contre 73. Voilà, c'était tout pour les classements après ce Grand Prix de Turquie. On est déjà à la 7e course de la saison. Je dirais pas, on est déjà un bon tiers.
Ouais.
Alors, on va passer à la minute la plus longue de l'émission, parce qu'elle dure plus qu'une minute.
Ceci est un message du comité de surveillance des podcasts. Pour relever le niveau de l'émission, le service après-vente de la F1 vous présente sa rubrique culture, la minute historique d'Enzo.
Nous t'écoutons, Enzo.
Donc, quand je disais à Dino que j'avais pas eu le temps de préparer, il me disait « Oh, bah, t'as un sujet tout trouvé. » Bien sûr, c'était celui que j'avais prévu. À savoir... non, mais c'est vrai. À savoir les luttes entre coéquipiers et bah, comment ça s'était fini, finalement, quoi. Donc, les luttes entre coéquipiers, bah, notamment quand elle joue le titre. Mais on verra que pas seulement. Donc, il y a des années où il y a des écuries qui dominent. Mais plus qu'une écurie, c'est également un pilote. Alors là, on n'a pas vraiment de lutte en coéquipier. Donc c'est ce qu'on a eu en 2009. Mais bon, Button n'a pas vraiment été inquiété par Barrichello. Pareil en 2004, en 2002, par Schumi chez Ferrari. Là encore, pas inquiété par Barrichello. Décidément, il n'y a personne, Barrichello.
Oh, il a inquiété Hülkenberg, hein.
Oui, en 92, la domination de Williams Renault, bah là c'est pareil, c'est Mansell, mais Patrese est quand même loin du compte. Donc les gros duels au sein d'une même écurie et en gros comment ça s'est fini, bah celui qu'on a tous en mémoire, c'est quand même 2007, oui. Avec McLaren qui a reconstitué le duo Prost-Senna des années 90. En associant donc le jeune Lewis Hamilton à Fernando Alonso, double champion du monde, et ben on connaît le résultat. Ils ont offert quand même leur lutte, ont plus ou moins offert le titre à Kimi, quoi.
Ouais.
Faut quand même être relativement confiant de ça et sans. S'il y avait eu des consignes d'écurie, s'ils avaient su manager les caractères des deux pilotes, je pense que le titre serait resté quand même chez McLaren. Alors si on remonte en fait, si on remonte le temps, il faut quand même remonter assez loin. On a eu des luttes entre coéquipiers serrées, mais il y en a eu aussi des très correctes, puisque sur la piste ça s'est pas traduit par des accrochages. Je pense notamment à 96 entre Hill et Villeneuve, qui sont battus pratiquement jusqu'à la dernière course. Mais bon, Villeneuve, c'était sa première saison et bon, il savait qu'il avait le temps, il avait un contrat à long terme chez Williams et donc ça posait pas de problème. Alors, je vais vous poser ma question, c'est jusqu'où faut remonter pour avoir un duel entre coéquipiers qui offre le titre à quelqu'un d'autre.
Qui offre le titre à quelqu'un d'autre? Bah, dans les années 82, non? Le titre à Rosberg?
Oh, quand même pas si loin. Alors, je pense que ça, vous avez sans doute oublié, du moins.
Alors, ah, c'est pas proche. C'est
pas flagrant, si tu veux, mais, c'est en 90. Chez Ferrari, il y avait Mansell et Prost. Et notamment une course au Portugal où il monopolisait la première ligne. Et Mansell a tassé Prost et a laissé passer les deux McLaren. Et au final, beaucoup d'observateurs ont dit que Mansell avait empêché Prost cette année d'être champion du monde par cette manœuvre, quoi. Donc c'est une des dernières fois, en fait, que ça s'est assez mal fini. Alors que Mansell était pas du tout en lutte pour le titre, hein.
Ouais.
Ah oui.
Gros combat entre coéquipiers avec des manœuvres aussi pas très fair-play, mais avec une telle domination de l'écurie, c'est en 88 et 89 chez McLaren.
Oui.
Bon, il n'y a pas d'adversaire, donc ils pouvaient se friter entre eux. au final, ça n'avait
pas de conséquences.
Ça n'avait pas de conséquences. Le titre revenait à l'un ou à l'autre. En 87, il y a pareil, il y a une lutte Pickett-Mansell chez Williams. De mémoire, parce que je n'ai pas recherché, Mansell a un accident à l'avant-dernière course au Japon, qui le prive du titre et l'empêche d'aller d'aller défendre en Australie, de jouer le titre jusqu'au bout en Australie. Mais bon, je crois pas qu'il se soit accroché pendant l'année. J'en ai pas souvenir en tout cas. Pareil en 84, Prost, Loda, un demi-point d'écart à l'arrivée, mais je pense que toute l'année ça a été propre quand même et il y a pas eu de grosse rivalité. Et puis voilà, je voulais remonter en effectivement, t'en as parlé tout à l'heure, Dino, jusqu'en 82. Alors, c'est pas vraiment le titre à Rosberg que je retiens, c'est surtout la rivalité Villeneuve-Pirodi. Oui. Et notamment,
avec des circonstances, avec des...
La crasse à Imola, on va dire. Pirodi qui va pas, qui respecte pas les consignes. Et qui fera que Villeneuve, veut à tout prix avoir la pole position à Zolder, 15 jours plus tard, et Stu lors des essais. Et là, je crois que j'ai jamais fait aussi court.
Non, mais c'était intéressant.
Oui, oui.
Court, mais intense.
Voilà, c'est bien.
Donc, que deviendra cette rivalité à la fin de la saison? On verra.
Et puis, en plus, cette année, c'est... Enfin, on a plusieurs rivalités dans plusieurs équipes.
Ah oui, ouais. Oui, on l'a. C'était... Les quatre top teams ont des... 4, du moins 8 grosses personnalités, on peut dire quand même.
Ah oui, oui.
Mais... Un peu.
Un peu. On revient sur les faits marquants de la course.
C'est moi.
Pourquoi? Hein? Pourquoi a-t-il fallu que des gens votent? Hein? Pourquoi des gens ont voté pour moi?
Alors, je peux balancer des noms si tu veux. Hein.
Moi, je peux même te dire que Dino sur le chat, il disait votez pour Shinji Enzo.
Et j'ai dit Shinji et Enzo.
Donc, quel est selon vous le fait marquant du Grand Prix de Monaco? À 23%, seulement 6 votes. Weber, Prince du Rocher. N'est-ce pas, Enzo?
C'était beau comme formule pourtant.
C'est vrai.
Moi, j'essaye de faire de la poésie.
Ouais. Nous, on essaye de faire efficace, excuse-nous.
En oui, deuxième.
Voilà. Tu vas voir la prochaine fois. Je saurais te le redire.
En deuxième place, 31%, 8 votes. Pourquoi deux personnes ont voté? Franchement. Ah oh là là. C'était le dépassement de Schumacher sur Alonso.
C'est vrai qu'il était beau. Hein.
Ouais. Illégal, mais beau.
Et donc, premier, 46%, 12 votes. La remontée stratégique d'Alonso.
Et vous n'aurez pas de musique? Non, je déconne. Vous aurez de musique. Vous inquiétez pas. Ah, alors, merde, vous m'avez entendu, c'est ça?
Oui.
Oh merde. Bon, bah, je couperai au montage.
Alors, Enzo, quel est ton fait marquant du Grand Prix de Turquie?
Mystère!
Ben, le point qu'a acquis Kobayashi. Non, je déconne.
Ah, c'est au moins t'assurer une voix.
L'accrochage Vettel-Weber.
Bon.
C'est surprenant, hein?
C'est surprenant.
Je suppose que vous avez préparé d'autres choses.
Bah oui, on avait prévu le coup.
Je vais dire l'arrêt au stand raté de McLaren.
Ah oh, putain, il me pique le mien.
Bon, il y en a un autre mieux avant. Ça, c'est pour finir dernier qu'il a choisi ça, hein.
Oui, c'est vrai. Et bah moi, bah oui, je vais dire la lutte pour la victoire entre Button et Hamilton.
Ok. Tout de suite, les drive-thru.
Le service après-vente de la F1 vous présente les drive-thru of the weekend. Quand les animateurs disent que franchement, c'est pas bien.
Alors, c'est drive-thru.
J'avoue, j'ai même pas réfléchi.
Eh ben, je vais commencer alors. Hein.
Vas-y.
Eh ben, moi, c'est contre la piètre prestation de Ferrari pour son 800e Grand Prix.
Non, 8ème, c'était bien.
8ème.
C'était bien, pour son 8ème. Non, c'est bien, moi, je trouve.
C'est tout, Enzo?
Bah oui, voilà, y a rien à dire, quoi. Tellement c'est piètre, y a rien à dire.
Moi, je vais dire, un drive-through contre Red Bull, mais pour la façon dont ils sont un peu en train de gérer tout ça, parce qu'on a l'impression que c'est limite s'ils vont pas s'entre-déchirer entre Vettel et Weber. Alors Horner, il essaie de calmer le jeu, il a déjà dit que bon, la faute était sur les deux pilotes. Sans doute qu'il a dû leur passer un très gros savon dimanche soir, ça serait pas étonnant. Mais il essaie de calmer le jeu. Au même moment, t'as Helmut Marko, qui est pas n'importe qui chez Red Bull.
Qui est le recruteur.
Voilà, et qui représente Red Bull et Matešić, hein, c'est pas rien. Qui lui a carrément pris parti pour Vettel. Pour foutre un peu la merde dans l'équipe, y a pas mieux. Voilà. Alors, il paraît qu'ils vont se rencontrer et tout. Enfin, à force de vouloir en fait éviter que ça explose, on a l'impression que plus le temps passe et plus justement c'est en train de dégénérer. Voilà, c'était ça.
Il y a parce que c'est un commentaire récent. Il y a Globen qui dit, c'est vrai qu'il faut. Il a l'impression sur le site en fait. Il dit qu'il a l'impression que on dramatise quand même beaucoup autour. Que
sans doute.
Voilà, surtout les médias, ils en font autour, quoi. On va scruter. Il y avait qu'à voir pendant le Grand Prix la nuée de journalistes qui s'est jetée sur Vettel. Voilà, ça fait partie du jeu maintenant. Est-ce que c'est un drame? Est-ce que
c'est
ça
presque
va...
comme si quelque chose qui aurait pu être vite étouffé, justement parce que les gens dramatisent justement l'événement.
Voilà.
Et ça risque d'être pire en fait qu'au départ.
Mais finalement, c'est pas plus mal aussi, parce que on sait très bien que chez Red Bull, c'est quelque chose qu'il faut percer, quoi. C'est un abcès qu'il fallait percer. Ouais.
Ah, sinon, j'ai un deuxième tout petit drive-thru, c'est quelque chose qui m'a choqué. J'étais horreur. C'est contre les organisateurs de Turquie, qui sont pas foutus d'avoir deux drapeaux britanniques identiques. Oui, je sais, c'est quoi. Cool. Ah.
J'aimerais bien que tu détailles.
Parce que sur le podium, tu sais, il y a les drapeaux.
Oui.
Donc il y avait deux drapeaux britanniques pour Button et Hamilton. Et en fait, le drapeau d'Hamilton était bleu pâle et le drapeau de Button était bleu foncé.
Réveille-toi, Enzo. Réveille-toi. Non, tu ne rêves pas. Ah non, j'ai quasiment jour pour jour après Monaco.
Mais justement, je me suis dit, j'y ai pensé, et je me suis dit, ça faisait longtemps qu'on avait pas eu un truc à la con.
Ah bah ouais.
Voilà. Mais je suis assez d'accord avec toi, ça m'a choqué aussi.
Oh, ça voilà. Part.
Voilà. Je l'ai quand même mis en deuxième, hein. Je suis pas débile au point d'en faire mon drive-through principal.
Ah non,
alors.
Moi j'ai failli le mettre premier, hein. Franchement, voilà. Ça m'a vraiment choqué. Je l'ai pas vu. Hein.
Mais t'es d'accord avec Shinji?
Non, pas du tout. N'importe quoi. On est tombé bien.
Et toi, Dino?
Moi, la cravate de celui qui a remis la coupe. Parce que son nœud était molle. C'est un nœud simple et non pas un nœud doux.
Non, mais tu comprends pas, Enzo. C'est que en faisant un drive-through à la con, ça l'empêche lui de faire un drive-through à la con.
Moi, ça serait un drive-through contre. C'est bien. J'en ai un en tête, mais il est à la con, alors.
Tu vois, je m'en doutais.
Bah, moi, ça serait. Je l'ai dit. C'est un peu sur l'ensemble des déclarations de McLaren après la course, où bon, d'abord, ils ont dit que c'est eux qui avaient poussé Red Bull à la faute. Même si c'est vrai qu'ils ont mis la pression, c'est pas parce que c'est pas McLaren qui les a poussés à la faute, c'est eux-mêmes qui se sont auto poussé à la faute. Et puis il y a aussi le fait qu'ils aient un petit peu trop accentué c'est un cadeau qu'ils nous ont fait. Ça sent la guéguerre depuis le début de l'année. Il y a une guéguerre entre Red Bull et McLaren, et on sent que McLaren a la même image au même point de vue que Ferrari, est gêné par l'image grandissante de Red Bull, et voilà. Alors il y a eu le coup des diffuseurs, etc., et là voilà, c'est Red Bull nous fait des cadeaux, vous avez vu, nous on a su se battre comme des gentlemen, et vas-y qu'on met ça en avant, etc.
Soudain, une équipe Red Bull vous fait un cadeau. C'est le secret des nouvelles Impulse.
Mais voilà, ils se sont fait tout aussi peur, et donc voilà, c'est un peu le. Moi, c'est ce qui fait que j'aime pas McLaren et que c'est une écurie qui m'énerve. Voilà, c'est par moments ce manque d'humilité, et je trouve que là, ils auraient dû rien dire. Et puis Hamilton qui dit j'aurais préféré gagner autrement. Non, quand tu gagnes, t'es content de gagner. Moi, voir un mec comme lui faire la gueule qu'il a fait sur le podium, non, t'as gagné, que tu sois pas content parce que tu aurais préféré aller la chercher en gagnant des places avec ta voiture. D'accord, mais tu n'as pas le droit de bouder ton plaisir quand tu gagnes une course, surtout en l'ayant gagné face à ton coéquipier. Voilà, il y en a deux qui ont abandonné devant toi, bah t'y es pour rien, tu la gagnes la course. Oui. Donc voilà, moi c'est un peu sur l'ensemble de la communication McLaren après le Grand Prix. Je trouvais un peu limite, voilà. Et sinon, j'ai un tout petit drive-through contre Lewis Hamilton pour ses boucles d'oreilles. Non, sérieusement, c'est pas possible. C'était ça mon petit drive-through pourri. Il a pas le droit de faire ça.
Ouais. Alors, on passe au concours ?
Oui !
Le service après-vente de la F1 vous présente le concours Top Opposition. Un concours sans musique qui fait flipper ni question à la con, quoique.
Donc, alors, concours Top Opposition, la question était, si vous vous souvenez, messieurs.
Je sais pas.
Oh, en quelle année a été rajoutée la fameuse chicane après le tunnel à Monaco, d'accord? Et c'était en 1983. Non.
Ah, tu m'as fait la blague quand j'ai joué au jeu chez toi.
Oui, parce que voilà, j'ai fait essayer le jeu que je vous montre de façon totalement héroïque, hein, dans les vidéos, oui. le tour de piste de Dino. Je l'ai fait essayer pour la première fois à Shinji la semaine dernière, on partage notre vie privée, et ouais. Il a, comme tout fameux jeu, le premier circuit sur lequel il s'est jeté, c'est Monaco.
Ouais. Ouais.
Et donc, effectivement, il a coupé cette chicane et je lui ai dit, voilà, toi tu joues sur la version avant 1986.
Voilà.
Et après, moi je me suis attelé à la Turquie.
Et on a vu ce que ça donnait.
Non, j'étais bien, ça.
Arrête.
Et d'ailleurs, dans la vidéo qu'il y a du tour de piste, tu fais référence à un événement que moi-même j'ai vu. Où il y a un moment, t'es coincé entre deux voitures d'une même marque. Et faut savoir que ce soir-là, parce que je l'ai vu tourner Dino. Il s'est fait prendre en sandwich par deux Ferrari.
Mais là, c'était pas de ma faute. Là, dans la vidéo, alors, c'était de ma faute, mais là, les deux Ferrari, c'était pas de ma faute.
Oui, c'était surtout l'IA qui était bien merdique.
Voilà. Donc, la réponse était effectivement 1986, et nous avons eu le record de deux réponses.
Ouh.
Hein,
alors, pourtant, c'était pas spécialement de l'année. Hein.
Honnêtement, voilà. Donc, messieurs, je vous propose les deux questions. Alors, première question. Quels autres grands prix de la saison tournent dans le sens anti-horaire comme le circuit turc? Et attention, deuxième question. La question suivante. Pourquoi le podium du Grand Prix de Turquie 2006 a-t-il fait polémique? Donc voilà, messieurs, que faisons-nous?
On finit l'émission.
Faut peut-être choisir une question, non?
Ah oui, pardon.
Moi, je choisirais bien le truc du podium, tiens. Parce que pour une fois, la réponse sera pas dans Stat F1.
Et donc, c'est Steph Corr qui remporte le fan de Robert Kubica.
Il remporte un fan de Robert Kubica?
Non. Je me faisais la remarque en le disant, t'as peut-être été trop loin, mais c'est pas grave. Donc, le grand ami d'Enzo, qui va être très content, hein. Donc, Steph Corr, félicitations au passage à Maël, qui nous allait envoyer d'autres questions. Donc.
Moi, j'aimais mieux la question à Maël.
Eh ben trop tard, fallait te manifester à temps. T'as pas été assez rapide. Donc, je vous rappelle la question. Pour quelle raison le podium du Grand Prix de Turquie 2006 a-t-il fait polémique?
Cette question.
Vous envoyez votre réponse sur le site du SAV rubrique contact en précisant bien concours top opposition. Voilà.
Elles
et bien
sont toujours
sûr
un peu pourries les questions.
Donc voilà. Donc vous allez sur le site du SAV www.savf1.fr. Et vous n'oubliez pas d'aller sur le site d'Enzo, www.enzof1.com.
Pourquoi tu te marres en disant ça?
Ça me fait rire.
C'est vexant.
Je suis vexé.
Parce que je sais qu'en ce moment, t'es préoccupé par d'autres choses, Enzo.
Mais sachez quelque chose. Venez sur Enzo F1 le 1er juillet.
Il y a déjà la date.
Allez, on se projette désormais au 13 juin, de l'autre côté de l'Atlantique, pour le grand retour, après 2 ans d'absence, du circuit Gilles Villeneuve, le Grand Prix du Canada. Alors, petit prono pour le Canada?
Ferrari. Alonso.
Jean, allez-y.
Moi, je dirais bien Vettel. Après avoir foutu dehors Weber.
Donc, Enzo, tu restes sur allez-y?
Non, Schumacher. Voilà. Non, Schumacher, Michael.
Personne n'a dit Kubica. J'aurais peut-être dû mettre Kubica.
Notez bien, j'ai dit Schumacher.
Oui, oui, mais je... c'est noté.
Non, mais notez ouais. bien.
Oui, oui, on a tous noté Ralf Schumacher.
Non, non, Michael. Non, mais notez bien. J'insiste, mais vous saurez me le dire, le redire.
Oui, on saura te le redire. On s'en rappellera.
Je l'ai bien dit, j'aurais été le premier à le dire.
Oui, Schumacher, oui.
Notez.
Tu veux nous faire une petite chanson sur Schumacher qui gagne au Canada?
Schumacher. Ouais. Non, mais j'ai pas l'impression que vous réagissez. Ce à quoi vous allez avoir droit.
Bah, peut-être un Schumacher qui gagne.
Schumacher.
Ouais.
Donc. Non, non, mais Schumacher.
On n'a pas entendu les autres. Tu pourrais répéter, s'il te plaît.
Schumacher.
Schumacher, d'accord.
Okay. C'est-à-dire que si jamais Schumacher gagne, on va même pas lui rappeler, alors que si c'est pas Schumacher, on va lui rappeler qu'il nous a fait chier pendant 10 minutes.
Ah non, mais c'est Schumacher.
Allez. On remercie nos partenaires, nos partenaires site, nos partenaires du Tour Mécatech, même s'ils ont pas fait le tour cette semaine.
Ils ont rien ouais. foutu, quoi. Voilà. On a été obligé de se payer Dino, quoi.
Ouais. On vous remercie, vous qui nous écoutez. Bonne journée, bonne soirée, comme d'habitude.
Au poteau.
Mais non, pas au poteau. Par contre, faites gaffe à votre batterie.
Pourquoi?
Bah, on sait jamais, celui qui nous écoute, il a peut-être un MP3, un téléphone portable.
Hein. Mais on s'en fout, c'est la fin de l'émission.
Hein. C'était pour changer du poteau. Allez, salut à tous.
Allez, ciao.
Ciao.